Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Les affaires reprennent, on commence la deuxième partie et la dernière partie de cette réunion sur les films de Dino, j'espère. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas trop, Déborah et Mathieu. Je me suis refait Jurassic Park 2 et 3 ce week-end. Et vous, est-ce que vous avez revu des suites, des morceaux choisis de la saga ?
Ouais, les Jurassic World. Et aussi Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, mais ça c'est juste par plaisir.
Ok, Déborah. Et toi, Mathieu ?
Toutes les excuses sont bonnes à prendre pour revoir Le Monde Perdu.
Ah ouais, en entier ?
Ouais, ouais. Non, le 3, j'ai revu des scènes, voilà. Et les autres, je les avais déjà revus à l'époque quand on avait traité Jurassic World pendant la sortie du 3.
Ce n'est pas si loin que ça, finalement.
Et ce n'est pas si loin que ça, effectivement.
Dans la première réunion la semaine dernière, on s'est arrêté parce qu'on avait déjà balayé quasiment un siècle de films et de séries de dinos, depuis Gertie en 1912 jusqu'à Théodore Rex et Tammy et le T-Rex, histoire de pouvoir confirmer. Ça nous a permis de confirmer que la civilisation avait un sérieux problème avec les dinos et ou la drogue dans les années 90 en tout cas. Et bien sûr, on s'est arrêté sur le premier Jurassic Park, la révolution totale de 93. On a un peu, on dit comme tout le monde. En fait, le problème, c'est qu'on ne savait pas quoi dire de plus là-dessus. Peut-être qu'on peut parler plus des suites, parce que les gens n'ont pas beaucoup parlé des suites de Jurassic Park. Non, mais c'est peut-être un peu plus simple, parce qu'il y a un peu moins de recul et un peu plus de débat. Et puis, j'ai l'impression qu'en plus, Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, commence déjà à montrer toutes les potentielles failles de la recette, quoi. À quel point tu exploites ton propre filon, comment tu m'enseignes un monstre, comment tu vas pousser les spectaculaires jusqu'à l'amener dans le royaume des hommes, avant de faire machine arrière, ce qui est un peu aussi ce qu'a fait Jurassic World 3 avec l'idée des dinosaures lâchés dans le monde. Donc, alors toi, Mathieu, on sait que t'aimes beaucoup Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Tu dirais que c'est un de tes préférés, en fait, de la saga ? Il est dans le top 3 ?
Ah bah oui, c'est le deuxième meilleur. Ouais.
Ok, tant bien. Dis ça.
Oui, clairement.
Et toi aussi ?
Ah oui, mais il n'y aura aucun Jurassic World dans mon top.
Ok, d'accord. Je ne pensais pas à ce moment-là, parce que moi, je trouve que Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, il y a déjà quand même... En fait, je trouve qu'il y a des morceaux qui sont très bien, notamment, évidemment, la scène de la caravane, mais pas que. L'introduction est vachement bien. Je trouve qu'à partir de la moitié du film, après les hautes herbes, en fait, ça commence un peu à s'écrouler. Je trouve que la dernière partie du film n'est pas très drôle. Et une fois que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnages et que régulièrement, c'est de la chair à pâté. Genre, notamment quand ils courent après la scène dans le camp, le dinosaure, le T-Rex les réveille et qu'ils finissent par tous avoir peur alors qu'on leur dit ne courez pas, ne courez pas. T'as vraiment cette sensation que t'as plein de personnages qui sont accessoires, qui servent à rien. Du coup, il y en a qui vont se faire bouffer. Et dans les hautes herbes, pareil, en fait, la tension est complètement étalée parce que t'as plein de gens, tu sais pas qui c'est, ils ont pas de nom. Et c'est un peu comme les gens à bord du Prometheus, il y en a plein qui se sont tués, mais tu sais pas comment ils s'appellent.
Après, c'est de la chair à canon.
Sur le point Godwin, quoi.
Tu veux juste les voir se faire croquer, voilà.
Genre... Ouais, mais je trouve que c'est compliqué d'avoir peur quand tu sais que dans un groupe, t'as genre 15 personnes qui sont des figurants, 3 personnages qui sont les personnages principaux. À quel moment je suis censé avoir un peu peur dans les autres ? Je trouve que c'est un peu plus équilibré. T'as une bande, les gens sont un peu incarnés quand ils sont tués. Tu sais qu'il y a un peu d'enjeu émotionnel avec eux. Là, je trouve que c'est vraiment complètement diffus à travers juste une bande de gens. Donc à chaque fois que je vois ce film, je me dis, c'est des morceaux de scène et autour ils arrivent pas à articuler l'histoire et je trouve que c'est assez décevant, je crois que je leur vois. Vous me regardez d'un air vraiment...
Moi je sais pas, vraiment la fin je la trouve marrante pour le coup, avec papa T-Rex qui vient chercher son petit, avec le personnage du scientifique où du coup il se fait bouffer par le petit parce que c'est le moment de passation de la chasse et de comment t'apprends à chasser tout. Je sais pas, je trouve vraiment c'est des petites idées qui sont assez drôles et une ironie aussi je trouve... bien piquante.
Ouais, non. Mais la scène du bébé T-Rex, la dernière fois que je l'ai revue, ça m'a fait penser à Gorgo, qui est un film de monstres anglais qui est devenu hyper culte, où l'idée, c'est des mecs qui trouvent un dinosaure trop cool, et qui, pareil, le mettent en foire. Et au bout d'un moment, ils se font... Mais ce serait pas un enfant ? Voilà, qui est aussi le gag de fin de Piranha 3D, tu sais, qui me fait beaucoup rire aussi.
Ah oui, j'ai oublié ça.
C'est où ils se font appeler par le gars qui fait « C'était des bébés !» Puis le dernier plan, c'est un mec qui s'est bouffé par un piranha qui fait 4 fois sa taille. Bref.
Donc c'est bien, j'ai parlé de Prometheus, il a pu caser Piranha 3D.
Ah non, mais Piranha 3D, le dernier plan, c'est pas genre le pénis qui flotte ?
Sûr que non, ça c'est dans le film au milieu.
J'avais
mémoire de Déborah s'est arrêtée à ça.
C'est peut-être le moment où t'as coupé le film par contre.
Peut-être que c'était le plan final pour moi. Mais après j'aime bien le film et je me rappelais vraiment que le plan final c'était un pénis.
Non. D'accord. C'est un jumpscare. Bon bref, ça, déjà qu'on n'a pas à prendre trop de temps pour parler de ça, si on commence à parler de Piranha...
J'arrête avec les pénis.
Je suis pas d'accord.
Non, je trouve... trouvez pas que même le choix des personnages et le...
Je trouve que même les nouveaux personnages, ils sont un peu caricaturaux, mais dans le sens Spielbergien, dans le côté unilatéraux, mais en même temps hyper instantanément attachant. Genre Julianne Moore, instantanément attachant. Pete Postlethwaite, qui est quand même un acteur de calibre et qui est excellent. Je trouve qu'il rend vraiment bien son rôle de genre de gros bourrin chasseur débile. Il y a Vince Vaughn qui, moi, me fait rire. Voilà, je le confesse. Je trouve vraiment qu'ils ont réussi à infuser... pile ce qu'il fallait pour rendre ça fun, et j'aime bien ce qu'il en fait. J'aime bien le, moi j'adore le l'hommage à Lost World, j'adore la dernière partie. Je sais que ça fait pas consensus, mais quand une des scènes qui m'a vraiment marqué quand j'étais gosse, bon, au-delà de la caravane et tout, c'est la séquence où ils attendent le bateau et ils ne s'arrêtent pas. Rentrent dans, qui est une pure séquence d'angoisse pour le coup.
C'est ça qui marche très bien, cette
hyper
séquence,
marquante, ouais. Et très bien réalisée. Et c'est d'autant plus ironique qu'il a piqué le nom du bouquin de Crichton, qui lui aussi voulait faire un hommage au Lost World, sauf que dans le bouquin de Crichton, il n'y a pas ça. Donc c'est un peu drôle qu'il lui revienne à ce truc-là. Et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Bon, après, le bouquin de Crichton, c'est une histoire de virus un peu bizarre.
Enfin, c'est, en tout cas, la fin, c'est le truc sur lequel l'histoire finit, que les dinosaures ont un virus qui va, de son, les condamner.
Ouais.
Donc ça finit pas de manière spectaculaire, c'est plutôt...
Finalement, ça
bah, ils sont condamnés.
Ça ressemble presque plus un peu au début de Jurassic World 2.
Exactement.
Sauf que dans Jurassic World 2, ils veulent vraiment les sauver, alors que dans le Crichton, je pense que...
Ils disent c'est peut-être...
À la fin, ils font...
c'est la fin.
Bon, ils vont tous crever, c'est pas grave.
Mais oui, dans le livre Le Monde Perdu, c'est plutôt une histoire d'enquête, parce qu'il y a des gens qui commencent à être attaqués sur les bords du Costa Rica, avec des scènes assez angoissantes, d'ailleurs, les dinosaures arrivent et du coup ils s'infiltrent un peu discrètement. Bon, je sais pas comment les dinosaures peuvent être discrets, mais bon. Et Ian Malcolm est déjà le héros avec un autre mec qui disparaît et du coup il part en expédition. Et il y a plusieurs personnages qui sont là. Il y a notamment celui de Julianne Moore. Mais je crois qu'ils sont moins en couple, ils sont juste très amis. Et il n'y a pas sa fille parce qu'il part avec une expédition et des jeunes étudiants. Et du coup, le personnage qui devient sa fille dans le film est juste une étudiante. Alors, ça aussi, c'est un des problèmes de ce film. Je trouve que c'est vraiment comment tu peux motiver, et c'est le problème qu'ils ont dans Jurassic Park 3, c'est comment tu motives les personnages qui sont déjà allés sur l'île à retourner sur l'île. Alors, du coup, dans le troisième, c'est un piège. Et là, c'est que sa copine y est.
Bah, moi, justement, je trouvais que ça fonctionnait bien. Genre, celle qui n'était pas sur l'île, à qui Yann a raconté mondes et merveilles, elle a envie d'y aller parce qu'elle le danger, autant dire que pour l'instant, elle se sent de taille à l'affronter. Et justement, Yann Malcolm est obligé d'y retourner un peu par amour. C'est bête, mais pour moi, c'est une justification totalement plausible. Et en plus, derrière, bon, après, moi, j'ai un peu plus de mal avec le personnage de sa fille. Pas forcément. Ouais, voilà, c'est pas forcément.
Pauvre, tu vois,
personne ne l'aime.
Mais ce personnage, il est indéfendable et c'est pas.
C'est un personnage. Prétexte quoi,
c'est un
outil.
Il est pas intéressant. C'est en plus, je sais pas pourquoi ils se sont dit on va rajouter un enjeu émotionnel pour lui alors qu'il a déjà sa copine et qu'il y a déjà 15 personnages autour.
Puis ce qui fonctionnait bien avec les gamins du premier Jurassic Park, c'était que c'était nous en fait, ces gamins qui étions fans, qui rêvions de voir des dinosaures. On était complètement obnubilés, on était nos petits geeks et tout ça. Et là en fait, c'est une gymnaste et à la fin, elle fait une pirouette où elle fout un coup de pied.
On a dit qu'on parlait pas de cette scène.
Non, mais il y a tellement de what the fuck dans ce film, et certains sont un peu amusants, mais à la fin, notamment, toute cette scène où les personnages se retrouvent dans l'espèce de centre abandonné où elle, donc, a fait son moment gymnastique. T'as Julianne Moore à un moment avec les tuiles accrochées au toit qui les fait tomber sur les dinosaures. Après, elle tombe, et vous vous souvenez, elle tombe dans le sol, elle tombe sur un néon, elle fait une roulade, elle sort par une fenêtre, et là, elle est rattrapée par Yann, et il continue. Tu dis, mais on dirait un cartoon, mais ça me fait même pas trop rire. J'ai l'impression qu'ils essayent même plus d'articuler les moments du scénario. C'est juste, les gens, ils roulent. Ils font des roulés boulés, ils font de la gymnastique, ils passent sous un truc comme bois, et vas-y, il y a l'avion qui arrive, c'est genre ok, ça glisse, c'est vraiment. Bon, il y a un niveau de je m'en foutisme qui m'amuse de moins en moins en le revoyant, mais je comprends qu'on puisse trouver ça amusant et assumer comme juste léger et divertissant. J'imagine que c'est ça qui vous amuse, non?
Ah, je trouve ça extrêmement divertissant. Je trouve que ce film est plus assumé dans le côté grand spectacle que le premier, qui certes le premier le met en scène, mais dans celui-ci, il y a une forme de. On lâche les chiens en fait. On lâche tout. Et je pense que c'est pas un hasard que. Parce que tu sais. La post-production de Jurassic Park, premier du nom. Bon, c'est assez connu que Spielberg n'était pas vraiment présent parce que lui était en Pologne pour tourner La Liste de Schindler, deux salles, deux ambiances.
Ouais.
Et il dit que ça l'a beaucoup miné de devoir gérer des dinosaures géants d'un côté et de l'autre la production d'un film très différent. Et que du coup, il a pris un petit hiatus dans sa carrière, ce qui lui arrive quand même pas souvent, pour reprendre. Et après, il reprend avec Jurassic Park 2, si je ne dis pas de bêtises. Et... Je sens un peu cette maturation du on va tout balancer dans le grand spectacle, on va y aller à fond, et il y a des trucs assez jusqu'au boutiste. La séquence donc avec le bébé dinosaure, elle est quand même assez impressionnante en termes d'effet,
Donc celle de la fin ou de la caravane?
Non, celle de la caravane.
La caravane, ok.
Parce que le bébé tenu qui est donc été créé par Sam Winston, c'est bah d'ailleurs Spielberg dit lui que c'est le fait le plus incroyable qu'ils ont fait pour Jurassic Park de la part de Winston, et je pense qu'il a pas tort. C'est une prothèse géante qui est un être entier qui est contrôlé à distance. On est avant les années 2000 quand même, c'est incroyable. Et la vitalité de cette chose, enfin, t'y crois direct. Alors oui, si on fait pause plusieurs fois dans la scène, on voit le câble qui relie, qui est de Vince Vaughn, mais on s'en fout, c'est trop bien, voilà. C'est vraiment hyper généreux et ils y sont allés, tu vois. Je trouve que ça, en fait, là, ça aurait pu être hyper feignant. Alors que c'est sûr que c'est pas le genre de Spielberg de faire une suite feignante, mais là, ils y vont à fond et moi, j'adore la fin, le côté un peu bourrin, la séquence où le gamin il dit il y a un dinosaure dans le jardin, qui est quand même encore une fois une belle manière de représenter dans le film l'effet qu'il veut créer sur les spectateurs. Voilà.
Mais c'est marrant parce que Spielberg dit que justement il avait très envie de cette fin d'un dinosaure dans la ville et qu'il s'est dit on la fout dans le 2 parce que je pense que je ferai pas le 3. Donc en fait tu sens qu'effectivement il s'est dit je coche toutes les cases que je voulais pour faire l'hommage que je voulais au monde perdu, et de toute façon c'est le dernier pour moi. Donc en fait tout ce que je veux mettre en scène personnellement avant de passer ça en tant que producteur, je le fous dans le film.
Et d'ailleurs lui-même avait beaucoup envie de le faire parce qu'il avait carrément créé entre guillemets une sorte d'ouverture pour faire une suite, qui est la canette d'ADN.
Ah oui, il voulait que ce soit au centre de la suite.
Il y a une séquence où il la lâche, et on voit la caméra s'attarde sur la canette qui dégringole et qui va se perdre dans Jurassic Park. Donc clairement insert pour potentielle suite, mais finalement il a choisi de partir sur notre...
Et l'écriture, c'est un peu amusant parce que le livre a été écrit en parallèle de la préparation du film. Donc Spielberg et David Kopp, le scénariste du premier, ont réfléchi à leurs idées. Ensuite, Michael Crichton a écrit son livre, ils l'ont sorti. Il s'est dit, de toute façon, c'est la fin pour moi, dans le sens où ils font ce qu'ils veulent de l'histoire, je ne participe pas, je ne suis pas spécialement impliqué. Et ils ont gardé le meilleur, selon eux, du film et du livre. Donc ils ont gardé notamment la scène de la caravane qui vient du livre, ils l'ont foutu dans le film, et par contre la fin notamment avec le dinosaure.
Ils ont piqué des trucs du premier roman de Jurassic Park, parce que lui aussi
la cascade notamment,
il me semble.
Et j'ai même l'impression que dans le deuxième livre il y a même des idées du monde perdu, le bouquin, qui sont gardées pour plus tard, genre les dinos caméléons qui étaient dans le monde perdu, c'est dans Jurassic World 1 où du coup le Indominus Rex fait...
De toute façon, une bonne partie de la saga a été piochée dans les deux premiers livres, même le 3, la volière, tout ça c'est dans le premier bouquin.
Et les œufs volés aussi, je crois que pareil, c'était elle est dans le 3, mais je crois que c'était dans le premier livre, en tout cas dans un des deux premiers.
Je sais plus, mais même ils se nourrissent entre eux. Dans le Jurassic World 1, t'as les bébés les bébés Triceratops, pardon, et c'est une scène qu'ils devaient mettre dans le premier Jurassic Park, mais qu'ils ont fini par couper.
Même le truc de la moussa rasée, là, au final, on l'a vu dans Jurassic World 3, mais c'était censé aussi, au bout d'un moment, être le scénario de Jurassic Park 4, donc Jurassic World 1.
Ça devient très clair. Voilà. Et dans le bouquin, il y avait aussi la scène des motos dinosaures, que Spielberg, pour le coup, regrette de ne pas avoir mis. Visiblement, c'est un truc qu'il avait trop envie de mettre en scène, et ils l'ont dégagé de Jurassic Park 2, et c'est devenu Jurassic World 1, pour le meilleur, mais bon, je ne pense pas.
C'est-à-dire Fishton qui n'a même pas été consulté avant qu'on lui parle de merchandising pour Jurassic Park 2. Quand même.
Ah ouais?
Ouais, c'est dingue.
Alors d'ailleurs, en parlant de merchandising, je suis retombé sur des articles de l'époque hallucinants. Le budget promo selon Universal, donc des articles qui étaient sortis avec des quotes du mec qui gérait le merchandising à l'époque, 250 millions.
Waouh!
Vous vous rendez compte? Mais même aujourd'hui, il y a peu de films qui sont à ce niveau de dépenses. C'était un truc de folie. Et vraiment, le mec dit, donc c'est Jim Klein, le président de la branche produit d'Universal à l'époque, le film est le plus important, mais le marketing est de plus en plus important. On veut créer des marques. Bon, au moins, le message est clair. Hein. C'est exactement ce que c'est devenu aujourd'hui Hollywood.
Honnêtement, autour de cette table, on a tous des trucs Jurassic Park chez nous.
Moi, j'ai jamais rien acheté Jurassic Park. Meilleure personne que vous. Mais à l'époque, Jurassic Park 2, c'était Burger King, Tropicana, Kodak. Ils avaient fait une tonne de trucs. Ils misaient sur 1 milliard de merchandising à l'époque. Donc ça, on ne saura jamais si ça arrivait exactement comme ils le voulaient. J'ai même retrouvé qu'à l'époque, ils avaient fait des teasers spéciaux dans certains cinémas américains, une quarantaine de cinémas, où il y avait des effets de lumière stroboscopique pour que tu sois comme dans l'orage à l'intérieur du film. Ils ont fait un trailer au Super Bowl, évidemment. T'avais une énorme exposition qui faisait le tour du monde avec la sortie du film. C'était vraiment un giga méga événement. J'avais pas conscience que c'était aussi énorme à l'époque, quoi. Vraiment, ils disaient, le premier a fait plus de 900 millions au box-office. Ils comptaient sur le deuxième pour faire encore plus. Ça n'est pas arrivé. qu'il a fait 618 millions au box-office, ce qui est pas mal. Hein.
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, franchement, c'était un énorme succès. Et il a coûté 73 millions contre 63 pour le premier, donc hors marketing, puisque 250 millions visiblement autour. Quoi. C'est hallucinant.
Incroyable, ouais.
Et le film a quand même dépassé les 70 millions pour son premier week-end, et c'était un record à l'époque. Il a fallu attendre Harry Potter 1 pour que quelque chose le dépasse. Donc vraiment, giga, méga événement, tout en étant un film que Spielberg lui-même n'aime pas trop, puisqu'il n'aime pas les suites de films qu'il a faites. Il n'aime pas Indiana Jones 2, et il a bien tort. Et il trouve que dans celui-là, un des trucs qui ne marche pas selon lui, c'est d'avoir pris des personnages qui n'ont plus le sens de la découverte et de l'émerveillement. Ils vont sur l'île, ils savent déjà ce qui se passe dessus.
C'est pour ça que je trouve que ça fonctionne bien avec le personnage de Julianne Moore, qui, elle... Et dans cet émerveillement, elle est à rebours de Ian Malcolm qui, lui, sait déjà toute l'horreur que ça peut être de ramener des dinosaures sur Terre, là où elle, elle est encore dans un état d'esprit beaucoup plus naïf, et justement, elle se prend la réalité dans la gueule.
Je trouve ça marrant de lui avoir créé une sorte de contrepoint à son cynisme, tu sais. Et cette réplique qui me fait beaucoup rire... quand justement la première fois qu'elle voit des stégosaures, et t'as Vince Vaughn qui est en mode mais quoi. Et je crois qu'Ian Malcolm lui répond un truc du genre bah vous attendiez à quoi, genre des petits animaux, des trucs. Et là je trouve qu'on retrouve ce sens de la démesure à la Spielberg de ok, on t'a dit quelque chose, mais le voir en vrai c'est quand même différent. Et ça porte une bonne partie de son cinéma populaire entre guillemets, je trouve, comme adage. Et je trouve qu'il le met très bien en scène dans celui-ci.
Ouais, moi je reste quand même sur ma fin, parce que j'ai toujours l'impression, le revoyant, qu'en fait je prends énormément de plaisir sur certaines séquences, encore celle de la caravane que j'ai revue, en me disant mais vraiment elle est parfaitement timée, elle est méchante, elle est cruelle, elle est longue quoi, vraiment il se passe beaucoup de trucs. T'as le mec en haut qui les aide qui se fait bouffer, t'as la caravane qui tombe avec lui au milieu, vraiment le coup du sac, vraiment le timing, parfait timing hollywoodien, très simple, vraiment le béaba, mais extrêmement bien foutu quoi.
C'est vraiment l'archétype de la scène où tu te mets à la place des personnages et tu te dis mais quel cauchemar quand ils sont dans la caravane et t'as ce plan de l'œil des deux dinosaures qui vont des deux côtés et tu te dis c'est comment ils vont s'en sortir en
mais
fait
oui.
et ce film est extrêmement violent
et quand Julianne Moore tombe sur la vitre, c'est vraiment tellement génial te dire mais l'horreur et la musique et vraiment les violons qui commencent là, c'est...
après elle se raccroche au sac à dos, donc
c'est
encore quelque chose
sac
de ultra...
porte-bonheur
ultra ça.
Salut, c'est l'équipe d'Écran Large qui interrompt le podcast d'Écran Large. On a un truc très important à vous dire, on lance une campagne de financement participatif sur Ulule et on a besoin de vous. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que comme tous les médias, on est menacé par des entreprises qui font la loi sur Internet, principalement Google, qui pompe de plus en plus nos revenus et empêche les gens d'accéder librement à l'information en créant un mur entre nous, les médias et vous. On lance donc une campagne Ulule pour plusieurs choses. Refaire entièrement le site Écran Large, continuer ce podcast et nos vidéos sur YouTube, et se lancer sur Twitch avec un rendez-vous en live pour analyser l'actu et interagir avec vous en direct. On pourrait même faire un documentaire sur les coulisses d'Écran Large pour montrer comment ça fonctionne, les médias. Si vous voulez nous aider, déjà on vous dit un immense merci et on vous donne rendez-vous sur Ulule pour la campagne d'Écran Large qui s'appelle La Revanche du site. Fin de transmission.
Le danger et la méchanceté un peu de Jurassic Park 2, c'est peut-être ça à la rigueur qui pour moi ferait le plus défaut dans Jurassic Park 3, c'est que le film est un peu trop gentil et juste il laisse ses personnages survivre quoi. Enfin, déjà Bobby, le fait que Bobby survive à la fin alors qu'il avait il a vu son sacrifice où
mais
tu
même
dis
le gamin, tout le monde a survécu dans ce film à la con
semaines,
quoi,
8 semaines, il est censé avoir vécu
il a écrit quelque chose a survécu, ils ont tous survécu.
Qu'est-ce que c'est nul quoi.
Ça c'est vraiment le gros point mort, même si encore une fois j'aime beaucoup ce film, c'est vrai qu'il manque de chair à canon, on va dire.
Ah, pour moi, vraiment, Jurassic Park 3, c'est Jurassic Park 2 en moins bon, avec juste moins de matière. Il y a moins de trucs à bouffer dans le film. Je trouve que les personnages sont encore pire que dans le 2. Vraiment, Théa Léonie, j'ai envie de la baffer, quoi. L'histoire de leur petite famille, ils sont un peu séparés, ils ont de la thune, et leur gamin a disparu, ils doivent le retrouver. Et vraiment, la réunion de papa, maman et fiston.
C'est film catastrophe, ça, on dirait.
Qu'est-ce que c'est?
On dirait le départ d'un film catastrophe, genre les parents divorcés qui vont se rabibocher parce qu'il faut aller sauver l'enfant.
Bah d'ailleurs, Théa Léonie a joué dans Deep Impact, hein, donc tu vois, on n'est pas loin. C'est vraiment la grande destinée de carrière de Théa Léonie, quoi.
Mais après, je trouve qu'on retrouve. Je vais me poser en grand défenseur de Jurassic Park 3, qui n'est pas un film parfait, évidemment. Mais je trouve qu'on retrouve ce côté un peu malin dans la réflexion, dans cette idée que, bon, t'as cette scène où Grant il fait qui n'a pas de questions pour Jurassic Park et tout le monde baisse la main, où le film a complètement conscience d'avoir fait de son personnage une sorte de pur personnage de pop culture pour lequel tout le monde ne retient que Jurassic Park d'ailleurs. Alors que d'abord, à l'époque, il a déjà fait L'Antre de la Folie et c'est un chef-d'œuvre.
Et Calme Blanc, mais il avait d'autres trucs, hein, mais c'est sûr que c'est.
Non, mais c'est pour le placer juste. Non, mais c'est quand même hyper intéressant de montrer littéralement un piège à nerd dans le film qui est lui-même un piège à nerd. Alors tu vas me dire que le mettre en scène n'excuse pas le film, on est bien d'accord, mais je trouve ça quand même plus malin. Bon, et du coup, c'est l'hilarant, honnête trailer de Jurassic Park 3.
Ah, je sais pas s'il est vu.
Franchement, c'est leur meilleur. Parce que, bon, déjà, le truc le plus drôle, c'est que tu vois le moment dans l'avion où il y a le dinosaure qui dit Alan. Et ben, en fait, entre chaque scène du honest trailer, il bête ça. Du coup, tout le trailer, c'est ça. Et à la fin, leur titre, c'est The Movie Where a Dinosaur Say Alan.
Et tu vois, en fait, je trouve que ça, c'est assez symptomatique de comme dans le 2, tu passes du raccord de la mère qui hurle à Ian Malcolm qui est dans le métro devant une pub.
En train de bailler.
Tu dis, ouais. C'est quasiment la profession de foi de Spielberg qui se dit. Ouais. Et dans le 3, le fait qu'un dinosaure dise Alan et que ça devienne un mème et un truc de gag, je me dis, mais en fait, c'est déjà l'aveu de on s'auto-torpille parce qu'en fait, c'est juste on tourne en rond dans le vide avec des dinosaures parce que c'est juste pour le plaisir. Et je trouve que c'est ça, ça se ressent sur les personnages parce que à côté de ça, les personnages, ils les font beaucoup parler. T'as des pseudo-interactions, des pseudo-dramas. Moi, ça me va si c'est pas de drama, pas de personnages et de l'aventure, mais c'est pas ce qu'ils font dans ces films-là. C'est ça qui m'énerve.
Bon, mais en tout cas, c'était pas le cas de Sam Neill qui, lui, est revenu en disant que. S'il revenait, c'est parce qu'il n'était pas complètement satisfait de sa performance dans le premier Jurassic Park. Il disait qu'il était trop impressionné par Spielberg, que du coup, il a pas su. Du coup, il voulait poncer un peu son personnage dans le 3. Et bon, du coup, c'est ce dont il se moque dans ce honest trailer, que ça s'applique vraiment fortement à Sam Neill, le fait que on le connaît que pour Jurassic Park, on le piège pour refaire du Jurassic Park sans qu'il le sache, et au début il veut pas, mais on finit par l'appâter avec un gros chèque. Voilà, bon, c'est
c'est
un peu triste en y repensant, mais c'est assez malin comme point de départ. Bon, après, quand tu connais les déboires de la production du film, franchement, ils auraient pu,
ça aurait pu être
beaucoup
pire,
plus mal s'en sortir.
Oui, parce que Sam Neill défend le film en disant qu'il a été un peu trop durement attaqué, mais qu'il trouve que les 10 dernières minutes sont quand même un peu en deçà du reste.
Ouais.
Mais visiblement, alors c'est quoi le bordel de la production? Dans mon souvenir, il y a un scénario qui a été jeté juste avant le tournage, non, c'est ça?
Non, mais en fait, il y a eu un premier... en fait, c'est Universal qui a... Comme ça, c'est dit, on fait une suite. Mmh. Et ils ont d'abord proposé à un mec qui s'appelle Craig Rosenberg de faire le premier script. Et il a fait un script qui, apparemment, serait une histoire de 5 ados perdus sur l'île. Donc, wouh.
Je crois que Joe Johnston, il avait résumé ça comme
un
épisode raté
de Friends. Il a dit que c'est un mauvais
épisode. T'imagines à quoi ça pouvait ressembler pour qu'il compare.
Mais je me demande si plus tard, il s'est pas défendu très très maladroitement en disant « Mais j'aime bien les mauvais épisodes de Friends !» donc bon, c'était pas la meilleure des idées. Et du coup, ça a été repris par d'autres mecs qui ont fait un truc beaucoup trop compliqué apparemment à l'époque. Ils s'arrachaient les cheveux, notamment pour savoir comment remettre Grant dans l'histoire, parce une des choses qui leur a permis de faire ce film, c'est que Neill était, comme je l'ai dit, très chaud dès le début à l'idée de revenir. Donc ils ont essayé de l'introduire et c'était un peu compliqué, apparemment le script partait vraiment dans tous les sens, si bien que finalement, sur décision de Joe Johnson et de Spielberg, ils ont complètement changé de braquet sur une idée de Coep, donc le scénariste des premiers, qui apparemment d'ailleurs n'aurait pas vraiment écrit, il aurait juste donné l'idée. Et donc ils ont tout viré, mais à l'époque le truc était déjà storyboardé, il était déjà budgété, ils étaient à 5 semaines du tournage. Donc, pour un blockbuster pareil, c'est complètement inimaginable. Et alors Johnson se dit qu'il se rattrapait en se disant que du coup ils allaient être dans le rush, il croyait pas si bien dire, parce que du coup ils ont engagé un duo d'autres scénaristes pour passer par dessus, dont un mec qui s'appelle Alexander Payne, et qui dit, et oui lui, et qui dit, en fait ils m'ont engagé en disant on a déjà l'action, on veut de l'humour, de l'histoire un peu marrante, etc. Tu peux nous rajouter ça? Sauf que quand j'ai vu le résultat final, ils avaient gardé que l'action de son script, parce qu'ils sont encore repassés par-dessus après pour épurer le truc. Bref, gigantesque catastrophe, si bien que quand ils sont arrivés sur le tournage, ils disent, je sais plus qui le dit, qu'ils avaient en gros, enfin c'est l'acteur le dit, qu'ils avaient un bon début, un milieu on sait pas trop, et une fin pas du tout.
Bah ouais.
Ils avaient pas de fin.
C'est honnête parce que c'est exactement ce que j'en sens.
Et Johnson dit qu'ils écrivaient les scripts le matin pour l'après-midi. Ce qui, sur une machine à 100 millions de dollars et surtout avec un film avec autant d'effets,
oui, c'est ça,
et complètement, enfin c'est un cauchemar en fait. Il est en plaisante tout le temps, Johnson, mais il plaisante parce que c'est par la suite il a fait des films comme Rocketeer, etc., qui sont très bons et qui se sont tous viandés. Et il dit j'ai fait des super des super films indépendants entre guillemets qui se sont viandés, et je pense que mon problème c'était que je me faisais trop plaisir, donc c'est normal qu'un film qui a aussi bien marché, ça a été un enfer. Il dit ça comme ça, donc voilà, apparemment c'était un pur cauchemar, les acteurs ont détesté le comédien
William H. Macy qui avait un moment rétro-pédalé en disant pas mal.
Mais il avait envoyé un genre de mail pendant la production pour se plaindre en disant que c'était une catastrophe parce que c'était jamais tourné, que Spielberg avait une chaise à son nom mais que lui il était jamais là. Il dit je sais pas si c'est une menace ou une promesse.
Mais c'est vrai que là tu sens que le truc il a lâché l'affaire. D'ailleurs Joe Dunstan devait peut-être faire Le Monde Perdu à un moment où Spielberg
quand Spielberg a fini Jurassic Park, lui Johnson, enfin c'est ce qu'il dit, il allait voir Spielberg pour lui dire si jamais tu veux pas faire la suite, moi je suis chaud.
Et donc il a rappelé pour ça.
Voilà. Mais du coup, c'est quand même étrange parce que juste à la sortie de Jurassic Park 3, il y avait déjà les discussions qui étaient lancées pour Jurassic Park 4, qui est devenu Jurassic World 1, avec Steven Spielberg et Johnson aussi, qui au bout d'un moment était censé reprendre la réalisation. Après l'enfer qu'il avait vécu sur le 3, il était en mode quelques mois après,
Johnson,
pas de souci pour le 4.
Il dit que c'était l'enfer, mais qu'il est très content de ce qu'il a fait. Enfin, lui, il a l'air d'assumer son truc. Enfin, après, en général, quand il en parle, il dit moi, ma philosophie, c'est je fais le film, je le balance au marketing, et ensuite, c'est plus mon problème. En gros, mais il a l'air d'être très content d'avoir fait un Jurassic Park.
Mais tu vois, il y a des choses que même les meilleures idées, notamment quand ils sont dans le complexe et que Théa Léonie regarde à travers un bocal et que t'as un T-Rex qui bouge pas, alors ça n'a aucun sens que le T-Rex reste immobile, mais bon, peu importe. Je crois que dans un scénario précédent, c'était une scène beaucoup plus longue, il devait vraiment plus exploiter ce décor, et je trouve que là, c'est rushé. En fait, ils vont se cacher dans une cage, la scène est amusante, mais après, ils en sortent, et je trouve que ça a vraiment comme ça avancé constamment. La volière, finalement, c'est... Tu sais, dans mon souvenir, à chaque fois, c'est vraiment la scène trop cool de Jurassic Park 3. Et en fait, c'est un peu amusant, surtout quand tu vois le bestiau arriver dans la brume sur le pont. Mais la résolution, il tombe dans l'eau. Et voilà, et on passe à la suite. En fait, il n'y a aucune couture entre les scènes. C'est vraiment genre, il y a vraiment le set piece. Et ils font même pas un effort d'essayer de rabibocher un petit peu les choses.
On sent le scénario improvisé en temps réel en voyant le film. Mais je trouve que c'est ce qui lui donne aussi un peu un charme. Tu vois, t'as vraiment un côté guérilla dans le film pour un blockbuster de cette ampleur qui, moi, me fascine un peu, j'avoue. Et du coup, le film se rattrape aussi avec... un nombre d'effets balancés dedans de façon délirante. Il y a un des artistes qui disait quand même que dans ce film, il y a plus de 400 plans truqués, ce qui fait presque deux fois plus que les deux premiers combinés. Pour un film qui dure 90 minutes quand même.
C'est marrant parce que j'aurais jamais décrit ce film comme étant particulièrement généreux côté dinosaures.
Après, il parle du CG, hein, comme on disait.
Ouais, mais tu vois, j'ai pas
dit
ça. J'aurais pas dit ça.
Pas
du tout.
Plus que le premier, en tout cas. Parce que le premier, ça joue aussi sur cette attente, sur cette découverte, sur le fait de nous faire languir et tout ça. Donc ça fonctionne bien. Après, non, quand même, je le trouve... tu vois, on a eu 65 il y a pas longtemps, la comparaison, il n'y a pas photo.
Ok, et le film a marché ou... Non, je crois que c'est un des moins bons scores de
toute
la
saga. C'est le
moins
bon score. Après, je crois que ça reste rentable, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas le score exact en tête.
Après, on peut se dire que si ça avait vraiment, vraiment pas été rentable et que ça s'était cassé la gueule, ils auraient pas fait de suite.
Ouais, mais si ça avait été suffisamment rentable, ils auraient fait la suite plus vite.
Oui, voilà.
C'est ça,
parce qu'en fait, il y a eu une pause.
Après, la suite, quand même, le développement, il a été particulièrement compliqué.
Ah, attends, avant d'aller à ça... Donc on est dans la décennie des années 90, Jurassic Park 3 c'est en 2001, c'est ça ? Donc au début des années 2000. À ce moment-là, il y a eu trois films Jurassic Park qui ont cartonné de fou. C'est quoi déjà les premières conséquences qu'on peut voir ? C'est quoi les déclinaisons ? Est-ce qu'il y a des films qui sont des copies conformes ? C'est quoi les trucs qui sont arrivés vraiment grâce à Jurassic Park ? On met de côté tous les délires cocaïnés là, dont on a parlé. Est-ce qu'il y a des films, des jeux, des trucs qui sont vraiment conséquences directes de Jurassic Park et qui sont bien ?
Pour le coup, je reviens avec ça, mais toute la franchise Le Petit Dinosaure...
Oui, c'est vrai, en parallèle. Ouais.
Et voilà, en parallèle, ça venait de là, surtout qu'en plus, il y a un truc vraiment horrible. Mais en fait, dans le film, le tout premier, Becky, donc un des petits dinosaures, est doublé par une actrice qui était décédée au moment où le film est sorti. En fait, c'est sorti à titre posthume. Elle s'appelait Judith Barcy. Et le truc horrible, c'est qu'elle a été tuée d'une balle dans la tête par son propre père quand elle avait 10 ans. Donc du coup après le doublage a changé dès le deuxième et pour le coup moi je les regarde en français mais j'avais déjà eu la curiosité du coup de les regarder en VO et c'est très bizarre parce qu'en plus du coup la réplique du personnage qui est yep 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 genre oui 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 en français ça a été gravé sur sa tombe et tout enfin c'est... Ouais, wow. Non, c'est assez dark. Du coup, le fait qu'ils aient continué la franchise derrière, genre vraiment des années après, en changeant le doublage de Becky, alors que déjà, quand le film est sorti, c'était posthume parce qu'elle était morte depuis quelques mois.
Merci pour cette anecdote glauquissime.
C'est hyper glauque, ouais.
Oui.
J'ai l'impression que, alors moi, fan de Dino Crisis, qui arrive en 99 et qui clairement était inspiré officiellement par notamment Le Monde Perdu et Jurassic Park, hein, Shinji Mikami, il a dit, qui avait fait le premier Resident Evil, disait, le premier Resident Evil, c'est clairement inspiré par La Nuit des Morts Vivants de Romero, du coup, Dino Crisis, c'est Jurassic Park, hein, évidemment. Et il dit d'ailleurs qu'il s'est inspiré d'une scène très précise du livre, qui n'est pas vraiment reprise dans le film, où tu as, à échelle humaine, vraiment, tu es dans un enclos et quelqu'un qui est terrifié parce que dinosaure peut-être autour. Ce qui ressemble à la scène où le chasseur finit par se faire tuer en disant un petit futé. Et il dit dans le film, il y a notamment des points de vue du genre quand la vache, on la fait descendre dans l'enclos. Et moi, je voulais un point de vue genre qu'est-ce qui se passe en bas quand t'es avec la vache, en gros. C'est comme ça qu'il a conçu Dino Crisis. Le premier est vraiment un truc d'horreur, de suspense dans un laboratoire et tout. C'est vraiment super cool. Le deuxième est vraiment côté actionneur, méga méga actionneur, genre Alien et Alien 2, c'est un peu ça l'écart. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'un des trucs les plus évidents, c'est le dinosaure de Disney qui clairement découle directement de ça, avec en plus le côté technique. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je me suis toujours dit que ça allait me faire chier. En fait, j'ai trouvé que c'était plutôt hyper intéressant. Ouais.
Alors, pour j'ai été agréablement surpris. Pour l'avoir revu, pour préparer la réu, bon, je l'avais vu déjà quand j'étais petit, genre une ou deux fois, et bon, bah voilà, c'était des dinosaures, franchement, il m'en fallait pas plus, donc je kiffais vraiment beaucoup le film. Bon, après, t'apprends que ça aurait dû être une version genre muette, ultra violente par Paul Verhoeven et Phil Tippett, donc du coup, tu dis, bon, j'ai sûrement perdu au change. Et surtout, j'avais jamais capté qu'en fait, c'était genre la relecture de l'histoire de Moïse avec un dinosaure. C'est qu'ils ont pris Moïse, ils en ont fait un dinosaure. Genre le berceau c'est un œuf avec toute la scène de début où t'as l'œuf qui se balade et tout ça. Et tout ça, toutes ces inspirations bibliques, c'était là dès le départ du projet en fait. J'ai trouvé ça quand même assez dingue parce que de base c'était censé être l'histoire un peu de Noé. Sauf qu'en fait Noé, il n'y aurait pas eu le déluge, mais ça aurait été l'astéroïde et il aurait eu des visions de l'astéroïde. Et du coup il aurait essayé de sauver les autres dinosaures. C'est quand même assez, assez space. Mais là du coup j'étais assez décontenancée par cette relecture de Moïse qui va en terre promise avec des dinosaures. Ça m'a vraiment fait quelque chose d'assez bizarre. Et autant toute la première séquence je la trouve vraiment bien avec l'éclosion de l'œuf. Bah déjà ça parle pas avec l'adoption en fait d'Alabar par les Lémuriens. Alador, un des deux.
Malabar.
Voilà. Donc ce personnage. Mais moi, vraiment, ce que je trouve dommage dans le film, c'est que ça aurait pu être vraiment quelque chose d'un peu plus primitif, en fait, dans la façon d'être. Là, les personnages sont tellement anthropomorphisés que, en fait, ça perd vraiment tout intérêt. Genre, les personnages qui sont vraiment censés être des prédateurs vraiment féroces et méchants, bon, voilà, au final, ça reste juste
des ennemis. Oui, un peu, quoi.
Voilà, ça reste des ennemis assez quelconques. On n'est pas sur le petit dinosaure et la vallée des merveilles, on nous plonge vraiment dans un monde. Oui, mais dans ce film-là, on nous plongeait dans un monde avec sa logique. Les dinosaures avaient leur logique. Oui. Ils avaient une conception du monde qui forcément n'était pas la nôtre, mais qui était vraiment très intéressante à analyser. Et là, on se retrouve vraiment avec une histoire très très peu originale, alors que niveau technique, ça casse des fesses. Enfin...
Bah alors, c'est un truc assez bizarre ce film, parce que je trouve que régulièrement, quand tu vois les gros plans, les textures et tout ça, il y a plein de choses assez intéressantes et assez impressionnantes. Mais dans les plans larges, quand tu vois la DA, c'est d'une pauvreté quand même en termes de couleurs et de matière et de décor. Souvent, je trouve qu'il n'y a rien. Alors,
pourtant, c'est des décors naturels.
Mais oui, mais du coup, je trouve que les interactions. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de plans larges où c'est pauvre. Quoi. Vraiment, tu as des moments où tu as des plans où tu as tous les dinosaures réunis en train de parler. Tu dis, mais on dirait qu'ils sont devant le vide quasiment. Et quand tu les vois, eux, interagir et bouger dans ce décor-là, je trouve que l'illusion, la magie ne marche plus du tout. Il y a des moments vraiment ça m'a sorti du film, alors que pour autant dans les gros plans je trouve que c'est impressionnant et qu'il y a plein de moments les textures, les écailles, les peaux, c'est hyper impressionnant.
Et c'est sorti en 2000, donc vraiment à un moment où la technologie, l'animation numérique était vraiment balbutiante, c'était un peu tout ou rien. Il y avait Toy Story qui avait ouvert la voie évidemment, mais Toy Story, enfin ce serait un peu de mauvaise foi de dire qu'à partir de là tout a changé. C'est à partir de ce moment-là tous les films n'étaient pas entièrement au numérique, mais là il y a quand même une énorme dose de numérique. Moi pour le coup je les trouve assez convaincant, sauf certaines fois les textures, mais encore une fois c'était en 2000, donc on peut pas vraiment attendre.
C'est moins les textures que les mouvements, genre les pattes quand tu les vois marcher. Je trouve que le clash entre les plans qui sont très beaux et les plans où je me dis mais on dirait quasiment que c'est un autre film. Des fois je t'assure que je me suis dit mais dans le champ contre champ j'ai l'impression qu'on a changé de film quoi.
Ouais, c'était plutôt pour les Lémuriens parce que forcément vu qu'ils ont un visage un petit peu plus humain entre guillemets, un peu plus expressif, là ça se voyait que c'était là, parfois ça accrochait l'œil, mais au niveau des stricts dinos, pour le coup je trouvais ça bien, mais juste l'histoire est un tel gâchis. Enfin, tout ça nous racontait l'énième histoire. En fait, c'est un peu Avatar 2, ton milieu naturel a été détruit, faut que t'ailles ailleurs et du coup, faut que t'arrives à pactiser avec les autres.
Heureusement
et tout
qu'Antoine
ça.
Ne t'entend pas, il t'aurait sauté à la gorge. D'ailleurs, je trouve ça assez amusant que tous les dinosaures ils parlent, sauf le méchant. Les Carnotaurs ne parlent pas parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils sont méchants et ils parlent pas.
C'est pareil dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, pour le coup, t'as tout. Enfin, après, c'est quand même un gimmick de l'animation pour bien te faire comprendre que les personnages gentils ont le droit à la parole, les méchants, eux, ils sont bestiaux et ils ne parlent pas. Ça, c'est quelque chose que t'as souvent dans les Disney. dans plein de Disney, c'est pareil dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles où les dents tranchantes ne parlent pas.
Mais je trouve que ça marche mieux parce que tu les vois souvent en menace arriver au loin. Il y a un truc qui
Là, il y a une vraie menace. Enfin, c'est-à-dire
ils
que
sont
là
tous
méchants.
Les deux, il y en a un qui se fait tuer, donc il y en a un qui se retrouve seul. Tu sais, tu dis en fait, il a aussi un parcours émotionnel si on est dans un film comme ça.
Oui, et en plus, t'as vraiment tout ce début qui est spectaculaire parce que c'est un volcan, je crois, qui.
Non, t'as des météorites qui tombent.
Ouais, voilà, t'as les météorites.
Raz de marée qui détruit leur île.
Et ce qui fait qu'en fait, le méchant, entre guillemets, le prédateur, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, on vient de te montrer que littéralement le ciel peut te tomber sur la tête. Alors, à côté, bah forcément, t'introduire après le dent tranchante, qui n'est pas un dent tranchante, mais le dent tranchante, bah forcément, ça perd de l'impact. Alors que dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, c'est l'affrontement
c'est
entre
génial.
Dent tranchante et Maman Long Cou qui perturbe en fait les plaques tectoniques et du coup, ça part en cacahuète et tout ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je trouvais que le film se suffisait sans carnivore en fait.
D'ailleurs, il rend hommage aussi à la scène de la cascade du premier livre Jurassic Park et donc de Jurassic Park 2, parce qu'à un moment, ils sont dans la grotte cachée et
oui.
Tu sais, t'as toute l'eau qui tombe et en fait, il passe vraiment son museau pour rentrer et tout le monde est silencieux derrière.
Oui, et puis à un moment, il fait rouler un caillou
évidemment.
Qui du coup roule de l'autre côté.
Et donc après, c'est le chaos. Ouais, donc dinosaures, c'est quoi les trucs qui sont des déclinaisons directement, des conséquences?
J'allais dire, mais sinon, il y a eu toutes les séries aussi, les Dinotopia
voilà.
Et tout ça.
Ah oui, Dinotopia, effectivement. Alors là, putain, quel gros morceau de mon enfance perso.
Ah ouais?
Pour le coup, j'ai regardé aussi, mais j'ai pas re-regardé plus tard.
J'ai
donc,
vu des morceaux, ça fait mal. Hein. Dinotopia, c'est 2002.
J'ai revu des extraits récemment, et oh mon dieu,
c'est
ce que ça a vieilli. C'est hideux.
À
c'est
ce
difficilement
point.
Regardable, ouais. Mais bon, à l'époque, c'était quand même original, et il y avait un raptor qui jouait au ping-pong avec sa queue. Ça m'a toujours marqué. Voilà.
Okay.
Mais bon, globalement, au-delà de Dinotopia, je pense que le fait que Jurassic Park ait relancé l'intérêt du grand public pour les dinosaures, ça a surtout, et mine de rien, c'est assez vertueux d'avoir relancé l'intérêt pour les documentaires sur les dinosaures, bien évidemment, qui ont explosé à ce moment-là. Chose que, par exemple, tu vois, Jaws n'a pas fait. Il n'y a pas eu. Ça aurait été d'ailleurs bien mieux pour la préservation
oui,
de la sauvegarde des requins si ça avait lancé une vague de documentaires sur le requin. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand même pas comparable avec la légendaire sur la Terre des dinosaures de la BBC, qui également a fait toute mon enfance. qui donc, un truc qui était prévu dès 96, mais à l'époque, c'était considéré comme trop coûteux. Mais l'idée était déjà là, c'est-à-dire que c'est Tim Haines qui est à l'origine de ça, et qui est donc un producteur de la BBC, qui s'est dit, tiens, mais si on faisait un documentaire animalé sur les dinosaures avec la technologie de Jurassic Park, ce qui est une idée de génie, en vrai, franchement. Mais bon, à l'époque, c'était trop cher, mais il est revenu à la charge plus tard, en 99, et c'est là donc qu'ils ont sorti Sur la Terre des Dinosaures, succès énorme. Première diffusion anglaise, 19 millions de téléspectateurs. C'est impressionnant. Et en fin 2020, il y aura 200 millions de personnes dans le monde qui ont vu la série. Donc c'est quand même gigantesque. Et donc là, à partir de là, ils sont partis en roue libre. Ils l'ont décliné sous toutes les formes. Il y a eu la Terre des géants. Et en fait, à chaque fois, ça baissait un petit peu. Mais ça a toujours resté un énorme succès. Pour en avoir vu beaucoup. À l'époque, il y avait des épisodes spéciaux, etc. Et ensuite, il y a eu vraiment donc, la partie sur laquelle j'ai fait un article par pur kiff nostalgique, qui est, je pense, ex aequo avec Jurassic Park, le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais gosse à ce niveau-là, qui est une série qui a été diffusée en France sous le titre Safari Préhistorique, mais qui est en fait constituée de deux épisodes spéciaux de Sur la Terre de Dinosaures et une mini-série en trois épisodes qui est Sea Monsters. Et l'un, le génie absolu de ces séries, c'est que c'est un docu-fiction. C'est-à-dire que c'est un vrai aventurier, enfin c'est un vrai mec qui présentait avant des documentaires, qui s'appelle Nigel Marven, qui va dans le temps pour faire un safari préhistorique, très littéralement. Donc il va voir les dinosaures. Et en fait, lui, il est vraiment animé par le plaisir de la découverte scientifique. Il se met en danger pour voir de plus près tel ou tel dinosaure. Alors qu'il lui arrive des trucs hyper dangereux. c'est assez marrant.
Et il s'adresse à la caméra ou il y a une voix?
Tout à fait. C'est vraiment comme s'il tournait un documentaire... Okay. C'est vraiment sur le modèle Attenborough.
Et donc, c'est-à-dire que quand il est attaqué, les caméramans, ils courent aussi pour
ouais,
échapper.
Carrément. Il y a même des moments où le caméraman tombe. Enfin,
c'est drôle.
C'est hyper marrant. Bon, moi, ma préférée, c'est vraiment la partie avec les monstres des mers, parce que j'adore ça. Mais bon, du coup, on est un peu hors sujet, parce que Mosasaur, ça compte un peu dans.
Mais comment il fait
dinosaures.
Il plonge alors?
Ouais, il plonge dans une cage.
Ah
bah, j'adorais. Hein. Ça faisait parfois un peu peur. Hein. Et il y a tous ces moments où il fait. Ah, je ne devrais pas faire ça parce que c'est vraiment trop dangereux. Et puis il fait, ouais, mais en même temps, qui n'a pas eu l'occasion de plonger avec un mosasaur? Allez, je rentre dans la cage. Voilà. Donc c'est vraiment cool. Et ils en ont tiré ensuite. En fait, à chaque fois, ils s'éloignent de plus en plus du documentaire avec ça. Ensuite, ils en ont tiré une série qui s'appelle Prehistoric Park, où il revient dans le passé pour prendre des dinosaures et les préserver dans le monde contemporain pour les sauver de la fin des dinosaures.
Ok, ah oui, d'accord, on est très loin.
Voilà. Et là, on commence à être un peu plus dans la fiction. Et d'ailleurs, il y a des, à l'époque, il y a des gens qui ont, enfin, des gens de la prof, des universitaires qui ont un peu râlé contre les séries avec Nigel Marven, qui ont critiqué ça en disant que c'était quand même prendre le public pour pas intelligent du tout, que penser qu'il lui faut absolument un relais spectatoriel pour créer l'illusion et l'intéresser à un sujet, en fait. Alors que moi, j'adorais. C'était trop bien.
Puis ce qui est drôle, c'est que ces séries-là, en fait, elles continuent d'exister et d'être produites. On a eu Prehistoric Planet, là, qui est un film de cul pour n'importe quel fan de dino, avec des images absolument sublimes. Bon, là aussi, c'est pas très accurate scientifique, hein, évidemment. Mais,
tu parles de la série Apple ?
Ouais.
Franchement, je trouve qu'elle est assez... Je suis pas du tout un expert,
mais
ils l'ont expliqué, et à vue de nez, ça a l'air quand même de vraiment s'attacher aux avancées à ce niveau-là.
Parce que l'épisode, à chaque fois, se finit avec le petit topo scientifique, non ?
Ils expliquent, ils expliquent ce qui est vérifié et ce qu'ils ne savent pas dans l'histoire. Voilà. Okay. Non, non, une série exceptionnelle. Si vous aimez les dinosaures et que vous n'avez pas vu cette série... Quel plaisir, comme tu dis, c'est du dinoporn, quoi.
C'est exactement ça, ils ont mis des plumes aux raptors et tout ça, genre vraiment pour essayer de casser l'image, les raptors, vous avez que l'image des films de Spielberg, alors qu'en fait non. Et de toute façon, Spielberg, là, sur Netflix, il y a une série qui va ressortir.
La vie
qui
est sur notre planète, là, tout le monde s'y met, c'est marrant.
Ça a plus les millions de documentaires sur France 5, sur les dinosaures.
La rédemption un peu du raptor, car... Il faut le dire, dans Jurassic Park, c'est pas vraiment des raptors, en fait, c'est des Deinonychus... qui sont mais c'est Dave Crichton lui-même qui avait fait un peu la confusion. Un vrai raptor, ça fait, c'est un gros poulet, hein. Ça fait, c'est pas très haut, et on le voit dans la série Apple. Donc maintenant, on est quasi sûr, enfin eux sont quasi sûrs qu'ils avaient des plumes, et donc dans la série, c'est vraiment un genre de mélange entre un dinosaure et un oiseau qui chasse sur les falaises, etc. Voilà, et le Deinonychus, donc lui, il faisait plutôt les 3-4 mètres qu'on connaît au film de Spielberg. Ils ont un peu interverti, parce que je pense aussi que ça faisait un peu moins effrayant de dire Deinonychus, alors que Raptor direct, tu vois, ça claque.
Ouais, et puis t'as l'image de la peau rugueuse, quelque chose de très dur, solide, pas forcément avec des plumes, quoi.
Ça reste le même type de dinosaure, avec la grosse griffe, etc. Donc,
Mais d'ailleurs, c'est Tim Haines là qui a fait, c'était quoi, sur la Terre des dinosaures, c'est ça ? Il a aussi
Walking with Dinosaurs, en
fait, co-créé une série des années après, Nick Cutter et les Portes du Temps.
Toujours avec la même... Enfin, en fait, c'est les mêmes gens, tout ça. En fait, ils ont créé leur boîte de prod à un moment. C'est le dernier... La dernière étape après Prehistoric Park et les quelques trucs qu'ils ont fait, parce que pour la BBC, il y a eu Walking with Spaceman. Enfin, ils sont passés... le Walking with est passé des dinosaures à tout et n'importe quoi, tellement c'est devenu une marque. Et après, cette boîte-là a fait, après Prehistoric Park, ils ont passé encore une étape dans la fiction avec Nick Cutter, qui, pour le coup, est une pure série de fiction.
Oui, parce qu'en gros, il y a des failles spatio-temporelles qui s'ouvrent un peu partout. Des dinosaures débarquent dans la réalité contemporaine et eux, ils les chassent.
Je l'ai pas vu. Je crois qu'il n'y a pas que des dinosaures, parce qu'ils se baladent dans le temps en général. Mais bon, évidemment, quand tu fais une série avec des gens qui voyagent dans le temps, la star, c'est toujours les dinosaures.
C'est ce qu'ils mettent en avant. Et c'est un côté très Doctor Who et Stargate.
Je crois que ça
ressemble
beaucoup à Doctor Who.
En avant. Et d'ailleurs, il y a eu un revival de ça en 2013 qui s'appelle Primeval New World, qui n'a pas marché. Un spin-off au Canada, je crois. Et je crois qu'il disait d'ailleurs que c'était une nouvelle adaptation de The Lost World de Conan Doyle dans les années 2000 sur la télévision britannique, qui avait permis vraiment de relancer Nick Cutter, qui était un projet qu'il avait depuis un petit moment. Donc en fait, ce truc ne s'arrête jamais, quoi. Dinotopia en 2002, Terra Nova aussi qui est arrivé, mais en 2011.
Oh, qu'est-ce que c'était nul, ça.
Bah oui. C'est produit par Spielberg,
oui.
Qui apparemment a repris le truc qui était un scénario, une idée originale de Kelly Marcel, qui est une grande scénariste, parce que vous savez ce qu'elle a écrit. Elle est créditée sur Venom 1 et 2, Cruella et 50 nuances de Grey.
C'est facile de se moquer.
Voilà. Donc à l'origine, elle avait cette idée et ça a été racheté. Enfin, ça a intéressé la Fox et Spielberg. Et Spielberg a dit, oh, il y aurait plein de dinos, ce serait bien. Donc elle a vendu le truc, elle s'est barrée. Et c'était un énorme projet à l'époque, hein, Terra Nova. Ils ont eu un pilote qui aurait coûté entre 10 et 20 millions. Pour information, le pilote de Lost, c'était 12 millions.
Alors que c'est tellement kitsch, c'est incroyable.
C'est pas très généreux, quoi. Parce qu'en gros, le pitch, c'est un futur, évidemment, apocalyptique. Il n'y a plus d'oxygène, la pollution, machin, bidule. Et les gens, dans une sorte de loterie un peu chelou, gagnent le privilège d'aller au-delà d'une espèce de porte des étoiles, un Stargate, pour aller à Terra Nova, qui n'est pas le passé de la Terre, mais un autre endroit, dans un autre endroit de la galaxie, qui ressemble clairement à la préhistoire, enfin à 65 millions d'années sur Terre. Et donc, ils ont un enclos en plein milieu de la jungle où tu peux reconstruire la civilisation quand tu as la chance d'être envoyé là-bas. Seul petit problème, il y a des dinosaures autour. Voilà.
Mais l'enclos de la jungle, ça, c'est... ça devient une sitcom de merde.
Ah bah, enfin, clairement.
Il y a 4 décors pour un truc qui a coûté aussi cher. C'est,
et puis la menace, oui, parce qu'après les épisodes sont descendus à 4 millions par épisode, mais quand même, c'est écrit. En fait, le principal ennemi de la série n'est plus les dinosaures qui sont juste figurants, c'est encore le gros problème des dinosaures en général. Ça devient une autre faction gens qui en fait ont fait sécession et sont un peu une espèce de tribu survivaliste et qui les attaque. Et t'as des adolescents dans l'histoire, donc il y a des histoires d'adolescents, parce qu'en fait, c'est un morceau de civilisation, il y a une école et tout ça, donc c'est chiant à crever. Ça a été annulé au bout d'une saison, ils ont essayé de la revendre à d'autres trucs comme Netflix, tout le monde a dit merci mais non merci.
Je me rappelle à regarder sur M6 à l'époque. Est-ce que c'était avant ou après Avatar? Je me rappelle plus, c'est quoi la date?
C'était après Avatar et ils ont repris
parce que là,
Steven
vraiment,
Lang
c'est,
dans un
c'est
rôle.
Double inspiration évidente quand même.
Non, c'est très très drôle mais c'est très nul. Voilà. Donc il y a eu Terra Nova. Est-ce qu'il y a eu Le Voyage d'Arlo aussi? Pour le coup, c'est un des rares films 100% dinosaures où ils sont pas du tout figurants, où c'est les héros, quoi.
Oui, c'est le personnage. Ouais. Arlo, c'est le personnage principal. Et non, franchement, c'est triste pour ce film parce que, ouais, clairement, il est en bas du catalogue Pixar. Et même avant que Buzz l'éclair se crache, c'était le plus gros échec de Pixar. Alors que normalement, tu dis... tu mets des dinosaures, mais Disney, ils ont jamais eu trop de chance avec les dinosaures. Le Fantasia, évidemment, ça s'était ramassé la gueule au box-office. Dinosaures, pareil. Le film, il avait coûté 127 millions de budget. Au final, il a à peine rapporté plus. Enfin, ça a été un peu une catastrophe. Enfin, à chaque fois que Disney ou Pixar a essayé avec les dinos, ils se sont cassés la gueule. Et là, le Voyage d'Arlo. Pourtant, c'est le début, je le trouve quand même assez genre marrant, quoi. On est dans l'espace et on est avec l'astéroïde, et en gros c'est le moment où l'astéroïde va péter tous les dinosaures, et en fait tu le vois juste passer super rapidement juste à côté de la Terre. Les dinosaures qui font que c'était rien, et puis qui continuent leur vie, et du coup enfin le point de départ est ludique. Après, c'est vrai que sans être un mauvais film d'animation, c'est un mauvais Pixar.
Je me rappelle avoir vu la bande-annonce où il y a ce gag de l'Uchronie, du truc qui traverse, et tous les dinosaures qui font Mais après, je vais voir le film en salle, et passer ça, je pense que c'est le Pixar que j'aime le moins, avec Cars 2, si je dis pas de bêtises, parce que Planes ne compte pas.
De ce film, c'était basique au possible.
Oui, c'est très très c'est très très basique. C'est au final un brontosaure, on va les appeler les longs coups. Donc c'est un long cou, qui est un peu plus fragile que sa famille. D'ailleurs, la scène de l'éclosion d'un des frères d'Arlo, elle est repompée à 1100% sur l'éclosion de Serra dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Voilà, bref.
Elle y revient toujours. Quand c'est pas Stallone, c'est le dernier.
Oui, mais franchement, compare les deux scènes, tu verras vraiment, l'inspiration est flagrante. Et en gros, il se retrouve très très loin de chez lui après la mort de son papa, un peu à la Mufasa, qui est emporté par une vague géante sur une falaise et tout ça, machin. Et ensuite, il doit retourner chez lui et prouver qu'il est courageux, et en même temps, il aide un petit humain. Et l'idée un peu marrante du film, c'était que ce sont les dinosaures qui sont les êtres civilisés et évolués, et ce sont les humains qui sont encore à un stade très primitif, même bestial, quoi, qui se déplacent à quatre pattes, qui grognent, qui parlent pas, tout ça. C'était censé être un plus rigolo, mais au final, le film est...
anecdotique.
Ouais, en fait, c'est ça. Il est pas véritablement mauvais, c'est pour ça que c'est pas un mauvais film d'animation, mais c'est un mauvais Pixar, parce que le standard Pixar est bien plus élevé que ça. Et surtout, il s'est rétamé au box-office.
Et si on reste dans l'animation, il y a L'Âge de glace 3 où il y a plein de dinosaures aussi, mais ils sont au centre vraiment?
Alors, celui-là, je me rappelle que je l'avais un peu rattrapé sur le tard, et quand il a été annoncé, je me suis dit, mais c'est complètement con, en fait, tout le parti pris de votre franchise, c'était de dire, nous, on se situe juste à côté, et en fait, on n'aura pas de dinosaures, on sera à l'ère glaciaire avec les mammouths, les tigres à dents de sabre et tout ça. Donc ça, c'était déjà un petit peu rigolo de dire, non, nous, on fait un pas de côté avec les dinosaures, et là, ils se sont obligés pour le troisième film d'en ramener...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En fait, tout simplement, le but c'était d'avoir plus d'aventures, de faire plus grand. Et qu'est-ce que tu peux faire comme plus d'aventures et plus grand que foutre des dinosaures? Mais après, le film, je trouve que c'est quand même le meilleur. C'est
Parce que les autres sont nuls, non?
Alors
le meilleur de L'Âge de glace.
Ouais. Là, c'est un peu hot take. Ouais. Je le préfère au premier. Bon, déjà parce que techniquement, il est plus abouti. Ça, c'est une évidence.
Mais le 2, il est pas bien?
Moi, j'adore le 2, moi.
Bon, l'histoire d'amour avec Ellie et tout, j'avoue que je m'en fous un peu. Mais dans le 3, il y a vraiment ce truc un peu drôle où Manny, qui est le mammouth, c'était lui qui représentait le gigantisme jusqu'ici. Les autres personnages étaient petits par rapport à lui. Et justement, le fait qu'il soit aussi gros dans ce monde-là, il n'arrivait pas à trouver sa place. Bref, blablabla, il y avait tout
que c'est malin.
Une double lecture. Et
oh,
là,
je déteste ces films, quoi, putain. Ah, mais le personnage, là, c'est quoi, le dent de sabre, là,
Diego.
Diego, qui, dans le premier, son arc, c'est qu'en fait, il y a un bébé, des animaux déjà avec un bébé, et leur cœur fond, parce qu'il y a un bébé, il s'attache à...
C'est pour ça que j'aime moins le premier que le deuxième.
Ah, mais le premier,
personnage
je déteste.
Il est trop chiant dans le premier. Oh là là.
Mais voilà, dans le 3, donc du coup, il y a ce truc un peu drôle déjà sur l'affiche où là, bah, le rapport de taille est inversé et du coup, c'est Manny qui est petit. Et je trouve que c'était très bien exploité avec en plus encore cette idée du monde perdu parce que là, en fait, le monde des dinosaures, il est sous la glace. Donc voilà, ils percent la glace, ils vont dans le monde des dinosaures.
C'est un peu bizarre, on revient encore à la vallée perdue, Lost World.
Voilà, on est sur un imaginaire qui fonctionne. Hein. Ça peut être très simple et on raconte les mêmes histoires autour de ça, mais ça reste quelque chose de ludique et. Qui est intriguant et t'as envie de découvrir ces mondes-là et tout, quand en plus ce sont pas des humains qui découvrent ce monde-là mais des animaux
qui ont tout d'humain, c'est original.
Pas préhistorique, comment c'est ces animaux-là, Mathieu?
Des animaux pas préhistoriques.
Pas préhistoriques.
Bah historiques. Bah, je veux dire, il y a préhistorique et historique.
Non mais les mammouths et les tout, ils ont pas
un nom. C'est avant l'histoire humaine, donc c'est préhistorique.
Oui, mais dans le premier film, il y a des humains.
Ah oui, bah, c'est vrai qu'en plus...
Oui, il y avait des humains.
Il y a des humains dans 1 million d'années avant Jésus-Christ. Hein, donc,
oui, non, mais, pour le coup, je pense que l'âge de glace 1 est plus accurate et scientifique que 1 million d'années avant JC.
Est-ce que vous avez eu le privilège de voir Le Monde Presque Perdu avec Will Ferrell, qui est un remake d'une série très connue des années 70 qui s'appelle Land of the Lost?
Absolument.
Alors honnêtement, j'ai juste l'affiche en tête où il est en train de faire une sorte de rafting dans la jungle.
C'est une énorme daube à un point. C'est, alors encore une fois, c'est une histoire de failles spatio-temporelles. Enfin, comme dans la série, hein, pour le coup, c'est dans la série, c'est une famille qui voyage par une porte spéciale au bout d'une cascade et se retrouve dans un monde qui n'est pas le passé, mais qui est une espèce de planète un peu bizarre. T'as plusieurs lunes et tout ça, donc t'es pas dans le passé, mais ça dirait un peu notre passé, version fantasmée. Et il y avait un dinosaure qui était leur ennemi principal, t'avais une tribu, t'avais quelques animaux, enfin quelques espèces, genre gros reptiles. Ils ont fait un remake de ça avec Will Ferrell. Et c'est tellement nul. Je vais vous donner quand même quelques petits morceaux choisis de cette merde. C'est que donc l'ennemi principal, qui est comme dans la série, un espèce d'un T-Rex, je crois. Enfin, un gros, t'appelles ça quoi? Des dents tranchantes?
Des dents tranchantes, oui.
Dents tranchantes.
Le nivellement par le bas, quoi.
Ouais, c'est ça. Il se retrouve à en vouloir vraiment personnellement à Will Ferrell, parce qu'à un moment, Will Ferrell lui dit, alors que le T-Rex semble être arrêté par un ravin, il dit « Ah, mais de toute façon, je pense qu'il est con, c'est un crâne de piaf, il a un tout petit cerveau. » Du coup, le T-Rex se retourne, est vexé, et va le poursuivre jusqu'à la fin du film pour lui prouver qu'il n'est pas con. Sauf qu'à la fin du film, il bouffe Will Ferrell, et après, Will Ferrell revient après avoir été chié par le T-Rex. Du coup, il lui a débloqué les intestins, et il revient à dos du T-Rex pour vaincre les méchants.
Wow.
Voilà. Et à un moment, un des gags, c'est aussi que le personnage féminin incarné par Anna Friel, le gag, c'est que tout le monde lui touche les seins pour communiquer. Et il y a aussi un moment, un cristal spécial qui vibre. Et en fait, quand tu mets tes mains dessus, tu fais de l'autotune. Donc, il chante Cher, Believe dessus. Voilà, ça, c'est le niveau.
Wow.
Et à un moment, pour ne pas réveiller des dinosaures, au milieu de tout un tas d'œufs qui sont en train d'éclore, il commence à chanter pour les réendormir. Voilà. J'ai regardé ça pour vous. J'espère que vous allez me remercier jusqu'à la fin des temps.
Moi, j'ai fait les chutes de Carnosaure, chacun.
Moi, je suis sûr que c'était au moins pire que Le Monde Presque Perdu, putain.
Mec, ça a l'air assez difficile.
Donc, moi, je croyais que c'était une sorte de voyage au centre de la Terre, un truc un peu drôle à la Jules Verne désaxée, mais pas du tout. C'est une énorme merde. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre de côté encore?
Bah après, t'as toute l'exploitation qu'il y a eu derrière Jurassic Park, bien évidemment.
Ah, genre Vélocipastor, des trucs comme ça?
Oui, voilà. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que le cinéma d'exploitation autour des dinosaures, c'est un peu comme les films de requins, désormais. C'est que d'un côté, c'est énorme. De l'autre, désormais, il y a une immense marge de ce cinéma-là, qui est une sorte de truc un peu post-moderne, ironique, du post-Sharknado, du post-Dino-Croc versus machin. C'est-à-dire des films dont le seul intérêt est de dire « Hey, t'as vu, on a un gros nanar débile, viens, on va être rigolo. » Et en fait, derrière, c'est pas rigolo.
Ouais.
Parce que c'est soit trop volontaire pour être vraiment spontané, soit une très mauvaise comédie. Bref, c'est souvent nul à chier. Et je mets Vélocipastor dans cette catégorie. C'est un peu mieux que certains trucs de requins tout pourris qu'on a eu, genre Attaque de requins à 2000 têtes, là. Mais ça vole pas haut. En fait, vu que tu sais que c'est volontaire, ça devient une comédie. Est-ce que c'est une comédie? C'est une mauvaise comédie. Ouais. Voilà. Mais j'ai quand même fait une petite liste de trucs sympas. Voilà, en 2008, on a Jurassic Commando. Ah, rien, il y a Norbert Moutier qui a fait un mockbuster de Jurassic Park. Si vous ne connaissez pas Norbert Moutier, c'est un cinéaste et fan de bis français qui s'est mis lui-même à faire des trucs bis complètement hyper fauchés à l'arrache pour la passion du truc. C'était complètement auto-édité, etc. Et donc Dinosaur from the Deep est un de ses films les plus connus. Donc ça se passe en 2004. Ne sachant pas comment exécuter un abominable criminel récidiviste, alors que la peine de mort vient d'être abolie, les experts du FBI et leurs avocats imaginent d'embarquer le condamné dans un voyage dans le temps, vers une époque où la sentence s'appliquait encore. Pour des raisons,
j'adore la complication.
Pour des raisons financières, cette expédition est couplée avec une mission scientifique sur la planète Terra et chargée de retrouver la trace des premiers dinosaures. Ceux-ci existent bel et bien, et alors que l'équipage s'est lancé à la poursuite du prisonnier en fuite, leurs membres doivent vivre l'horreur et faire face à des dinosaures de sang. C'est le pitch officiel.
Des dinosaures de sang.
Voilà, bon voilà, les rescapés du monde perdu 2009, T-Rex 3D 98, parce qu'il en faut un 3D bien sûr.
Est-ce que c'est aussi bien que Piranha 3D?
Je ne sais pas, mais ça a l'air très bizarre, c'est une histoire de gamine qui trouve un œuf de T-Rex, qui fait tomber l'œuf sur le sol, et qui là a des visions, elle se transporte à l'époque du Crétacé. Voilà. Me demande pas. Alors il y a eu plein de Raptors, il y a eu Raptor en 2001, Raptor Island en 2004, Pterodactyl en 2005, parce que du coup après ils ont fait des films sur des dinosaures spécifiques, bien sûr. Alors il y en a un qui me fait beaucoup rire, c'est Sherlock Holmes, Les Mystères de Londres. Alors dit comme ça, tu pourrais te dire, il
n'y
a pas de dinosaures. Ouais. Eh ben si, c'est Sherlock Holmes qui
enquête
sur
les Mystères de Londres,
dinosaures.
C'est des dinosaures.
Bah,
en fait.
C'est ça, voilà. voilà. Bon alors... Ah, j'avais pas parlé de Voyage to the Planet of Prehistoric Women. Alors là, on est avant Jurassic Park,
c'est
en 68.
C'est le Cave Girl Revival, ça.
Voilà, le pitch officiel. Des astronautes atterrissent sur Vénus, y affrontent des créatures dangereuses et y rencontrent des Vénusiennes sexy.
Oh là là.
Je pense que les dinosaures sont moins importants.
Parce que les femmes viennent de Vénus, c'est ça.
Ah putain, j'y avais pas pensé.
Voilà. Bon, il y en a plein. Il y a l'histoire de gars qui reviennent dans le passé, qui bougent un papillon et du coup, ça fout le bordel. Il y a des dinosaures sur la Terre. Il y a un film qui s'appelle Aztec Rex. Genre Aztèque comme la civilisation aztèque. Voilà. Une armée de conquistadors fait la découverte d'une tribu aztèque victime des ravages d'un tyrannosaure.
Oh,
réalisé par le mec qui a fait les Precon 3 et 4, quand même. Donc, okay. Marque de qualité. Voilà. Je suis tombé sur un truc qui est sorti en 93, donc l'année de Jurassic Park, qui s'appelle Kiyoriyuki Monogatari. Je crois que c'est japonais. Et ça a attiré mon œil parce que sur l'affiche, il y a un T-Rex habillé en Père Noël. Voilà, j'ai pas réussi à le trouver. Donc voilà.
Ok, bah l'affiche a l'air de valeur.
Voilà, j'ai un film qui s'appelle Planet Raptor qui est sorti en 2007. Et dedans il y a Ted Remy. Et le scénario m'a vraiment fait rire pour le coup. Je vous le lis. En 2066, les Raptors dominent désormais la galaxie. Sur une planète lointaine, un commando d'élite tente d'exterminer ces créatures. De leur succès dépend le futur de l'espèce humaine.
Starship Troopers avec des dinosaures. Quoi.
Dans la catégorie acteurs connus, il y a un film qui s'appelle Triassic Attack qui est sorti en 2010 et qui est avec, accrochez-vous, Emilia Clarke.
Oh, mais non.
Si.
Oh, mais on est en train en plus de réfléchir à faire un dossier sur sa carrière fantastique, on est passé à côté de celui-là.
Elle a fait un film de dino.
Triassic Attack, le pitch. Un Amérindien en colère contre le nouveau aménagement de la petite ville qu'il habite pénètre dans le musée et ramène involontairement à la vie trois fossiles de dinosaures.
Comment tu ramènes involontairement
une question.
Je veux savoir comment ça se passe. Voilà, il y a un autre corps.
Il y a Clark Jouki dedans, je crois.
Je crois qu'elle a pas un gros rôle, très clairement, c'est les tout débuts de sa carrière.
Quelle déception.
Elle double un raptor.
Voilà, bon, il y a un truc qui s'appelle Dinosaur Experiment avec les créatures les plus féroces de la préhistoire qui se cachent dans un petit ranch du Texas.
Mais tu devais pas aussi parler de Dinosaur Project qui a l'air d'être un des.
Si. Non, mais ça a été produit pour relativement de la thune. Hein. Mais avant ça, je veux aussi vous dire que j'avais prévu donc toute une liste avec, bon, voilà, Bikini Girls, Dinosaur Planet, etc. Mais hier, j'étais à la Nunanarland et ils nous ont passé un extrait. Que j'ai immédiatement noté, que je n'étais pas tombé dessus dans mes recherches, et pour cause, il n'y a que pour trouver des trucs pareils, d'un film qui s'appelle Sodomic Park. Alors j'ai cherché un petit peu.
Je me demande
de quoi ça parle. Ouais.
Donc là, clairement, on est sur de l'animation en volume, hein, mais très saccadé. Mm-hmm. Vous avez clairement pas les mots. C'est pas du Harryhausen, si tu veux. Donc l'extrait qu'on a vu, c'est un dinosaure très très mal fait qui poursuit une dame en petite tenue. Donc j'ai cherché un peu quand même plus tard en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ai trouvé le pitch. Qui est sur markdorcel.com. Donc c'est clairement une parodie, alors que je pensais soft porn en voyant l'extrait à la Nunanarland,
ouais.
Mais qui est, je crois, un vrai porn,
c'est
pour le
coup.
Car c'est un peu une liste de ce qui se passe dedans, le pitch officiel de markdorcel. Trois naufragés sur une île perdue, une tribu primitive adepte du fist et de sacrifice anal. Donc je veux savoir ce qu'est le sacrifice anal. Et enfin...
T'étouffes quelqu'un dans le cou du cul de quelqu'un d'autre, ça se passe comment ?
Des tripotanus déchaînés. Et j'adore le titre, le tripotanus. Je ne connaissais pas ce dinosaure, mais...
C'est un vrai dinosaure, le tripotanus ?
Voilà, je ne pense pas. Voilà, ils ont passé aussi à la même nuit un truc qui s'appelle Lust World, avec aussi des dinosaures. Et il y a aussi dans le pitch du sacrifice anal, donc ils ont une fixette avec ça.
C'est le sacrifice anal Cinematic Universe, quoi.
C'est un peu ça.
Mais bon, j'ai un peu peur de faire une recherche Google
Non, s'il te plaît. Si tu l'as fait au bureau, je pense qu'on va te pister en plus. Hein.
Donc voilà, le Z dinosaure, c'est aussi énorme que le Z de requin. On y trouve tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi.
Et Dinosaur Project, alors qu'est-ce que ça vaut ? Parce que en théorie, ça a l'air pas mal, mais vous l'avez regardé, vous ?
Ouais, mais l'affiche, franchement, elle est super bien. Genre, clairement, je me suis fait avoir par l'affiche, où je me suis dit, franchement, avec une affiche pareille, le film, ça va, il devrait se tenir un petit peu. Le principe du found footage, où j'ai cherché, en fait, d'autres films de dinosaures en found footage, j'en ai pas trouvé, du coup, je me suis dit, bon...
Gage de qualité !
Il y a quelque chose avec celui-là. Et oh mon dieu.
Ça parle de quoi ? C'est genre des gens qui...
C'est un monde perdu. Voilà, c'est clairement un monde perdu où il y a une... C'est quoi ? C'est une société de cryptologie, de cryptozoologie, voilà.
Ce qui est le vrai terme pour parler des gens qui étudient les créatures fictives. Ce qui du coup ne fonctionne pas avec les dinosaures, parce que c'est pas fictif.
C'est voilà. Et donc en gros, il y a un coin apparemment où il y a des dinosaures et tout, et ils y vont et... Il y a le fils du scientifique, qui est le Alan Grant, mais du triple pauvre, qui se lie d'amitié avec un bébé dinosaure, qui, du coup, bébé dinosaure va le protéger en lui crachant dessus.
Alors ça, c'est arrivé dans un film des Cave Girls. Je crois, quand les dinosaures régnaient sur Terre, à un moment, elles se cachent en pleine tempête dans une coquille d'œuf, et tu te dis, quelle brillante idée de merde. Et à un moment, la maman dinosaure arrive, et tu te dis, elle va se faire bouffer. En fait, non, elle la considère comme son bébé. Donc après, elle joue avec les autres bébés. C'est vraiment ses potes, et la mère la protège. Donc tout vient de là, en fait.
Ok, d'accord. Mais en tout cas, ce film, bon, déjà, les dinosaures sont mal faits et tout, mais bon, ça, c'est une chose. Honnêtement, je m'attendais pas à des dinosaures très bien faits. Mais moi, je me dis juste à quel point, pourquoi ton film, il est pas un minimum plus généreux, quoi. Tu nous vends une terre avec des dinosaures, au final, on a que des petits trucs. Et le seul plan où t'as vraiment, genre, beaucoup de dinosaures, vraiment quelque chose d'impressionnant, bah, ça fait tellement pitié. Le personnage, il filme ça en haut d'une montagne. Du coup, bah, les dinosaures, ils sont tout petits. Tu vois juste comme des petites fourmis qui marchent comme ça en troupeau. Enfin, c'est juste du gros foutage de gueule.
C'est surtout du fine foutage de gueule.
J'allais dire.
Le fine footage, genre, parfois, genre, il y a des plans qui n'ont strictement aucun sens. Ils savent pas justifier, en fait, le principe du fine footage. Ils te disent que d'un côté, t'as un gamin qui filme, et c'était plutôt malin. T'as une équipe de télévision qui est là pour faire un reportage et un gamin qui filme avec son caméscope. Donc, ça te permettait d'avoir différentes échelles, de pouvoir faire, en fait, une espèce de montage... où tu dis, bon, allez, c'est un peu plus justifié, mais en fait, certaines fois, les personnages sont filmés de façon tellement propre dans une situation, ils sont juste en train de parler, où il y a rien ne justifie que l'équipe de télévision les filme, en fait. Donc
après,
c'est
vrai que c'est le problème. Après,
le gamin, il est censé avoir 10 000 caméras sur lui, et du coup, filmer tout le temps, donc c'est un peu un prétexte, mais c'est vraiment l'archétype du fan footage des années 2000, fin des années 2000, où il y a un truc qui bruissette dans les bois, il braque la caméra dessus, et là, ça glitch, on a un gros bruit, et c'est écran noir, et scène suivante.
Et le titre, en fait.
C'est infernal.
The Dinosaur Project, The Blair Witch Project, on l'a compris, quoi.
C'est en 2012, donc juste après Cloverfield en 2008, donc j'imagine que
c'est... Oui, non, mais c'est vraiment la vague fan footage, il y a eu Rec, il y a eu Paranormal Activity, tout le monde veut sa part du gâteau, et là, le gâteau, il est dégueulasse.
Alors que pourtant, sur le principe, genre un film en fan footage dinosaure, moi je signais.
Ouais, il y avait la promesse d'un truc un peu pas réaliste, mais une approche vraiment survival du genre qui, mine de rien, est pas tant que ça en vogue, parce que c'est souvent des gros budgets, c'est souvent des gros films, parce que mettre en scène un dinosaure, ça coûte cher, enfin sauf dans le saut de Mick Park, mais du coup, ouais, souvent c'est des films qui s'adressent à un public plus large, et donc c'était un peu intéressant qu'ils utilisent le fan footage pour vraiment lorgner sur le survival pur et un truc beaucoup plus violent, mature, un peu méchant. Sauf que dans les faits, c'est vraiment l'archétype de ce cinéma-là pourri de l'époque, quoi.
Puis ils savent pas quoi faire avec les personnages, du coup il y en a un et c'est le borderline du groupe, du coup au bout d'un moment il veut s'approprier les découvertes scientifiques, du coup il essaie de tuer les autres et du coup c'est lui qui devient le prédateur. Non, franchement c'est tellement bateau.
Post-Jurassic, il y a un autre truc qui m'amuse, moi, c'est le film Komodo, je sais pas si vous l'avez vu, en 99, qui, sur l'affiche, c'est vraiment mis par les producteurs de Bidule, par les machins de Bidule, par les créateurs des effets spéciaux de Jurassic Park.
Mais c'est sur un varan, non ?
Oui, sur les varans de
Komodo. Par le stagiaire régie de Jurassic Park 3.
Et le film, pour l'avoir vu il y a pas longtemps, avoir fait un article dessus, c'est vraiment pas très bon, quoi. C'est comme Carnosaur, quoi, dans le sens où t'as vraiment pas de thunes, du coup tout est dans le noir, la menace ils arrivent pas du tout à l'incarner, les personnages sont inintéressants, t'as une histoire de famille et tout.
Il y a rien qui est un peu drôle, débilissime, qui devient drôle.
Non, pour le coup, ça se prend beaucoup plus au sérieux que Carnosaur, de mon souvenir. Je vais pas le revoir pour vérifier, mais c'est inoffensif, mais assez peu intéressant. Mais ça m'avait amusé, je me souviens avoir trouvé la cassette dans un Oz à l'époque en Mayenne et m'a dit waouh, ça a l'air cool, et me dit car les créateurs des effets spéciaux de Jurassic, c'est vraiment genre le dernier argument possible, quoi. C'est donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'il y a eu sur le post Jurassic? Alors, je trouve qu'il y a quand même un truc entier sur la comédie de merde. On n'a pas cité La Nuit au Musée, mais il y a un squelette de T-Rex qui se réveille.
Disons que c'est facile de parodier Jurassic Park, donc tout le monde a sauté sur l'occasion. Le ver et le. Bah, on avait projeté Shaolin Soccer la dernière fois, ils reprennent la scène du ver qui vibre.
Voilà, mais du
coup, c'est d'ailleurs très difficile à réaliser dans le Jurassic Park.
Oui, parce qu'ils l'ont fait avec une corde de.
Ouais.
Un
son en fait. Un
oui,
son,
c'est ça. De piano, un truc comme ça. Ouais. C'est amusant de se dire qu'un truc qui a l'air aussi simple est aussi complexe.
En fait, c'est hyper difficile à mettre en scène.
Et malicieux, ouais. Ouais, dans le monde presque perdu, même dans l'âge de glace 3, j'ai l'impression que les dinosaures sont quand même un peu en figuration dans le décor, non?
Ils sont en figuration. Après, c'est quand même le film de la franchise qui a rapporté le plus. Du coup, bah, les projets dérivés là, qui sont sortis sur Disney+, le film là, sur Buck. Bah, c'est tiré de ce film-là.
Ah oui, Buck qui apparaît dans cet épisode.
Et qui est une belette. C'est pas un dinosaure, mais c'est une belette.
On va jusqu'à la préhistoire et les dinosaures pour trouver une belette.
Ah, mais sinon, il y a peut-être un cas. Je sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais est-ce que le Godzilla de Emmerich ressemble autant à un T-Rex?
C'est du post Jurassic
oui,
Park.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est assumé?
Assumé dans le sens
on va pas se relancer sur la production énorme de ce film. D'ailleurs, je vais en parler dans la vidéo que je prépare là. Mais Emmerich en avait rien à foutre
de Godzilla. Oui, c'est
Godzilla. Lui, il voulait faire. En fait, lui, je pense qu'il voulait juste adapter la dernière partie de Jurassic Park 2 pendant une heure et demie. Et c'est exactement ce qu'il a fait.
Avec Jean Reno.
Avec Jean Reno.
Très bon cocktail. Surtout que ça finit avec un plan sur des œufs. C'est ça, non? Godzilla a laissé des œufs
oui,
quelque
c'est ça,
part.
Oui,
non,
comme c'est ça, il y a plein de petits Godzilla.
Très Jurassic.
Ouais.
Et la suite qu'on a pas
vu. Il prend des œufs normalement, Godzilla? Dans les autres films, dans la mythologie, est-ce que
il a un fils, hein, Godzilla, il a Minizilla les films japonais.
Mais la
version d'Emmerich a complètement traumatisé les Japonais. Hein. Dans les films d'après, ils ont passé leur temps à se moquer de ça. Ils l'ont appelé Zilla parce qu'il y a un des créateurs de la saga qui a dit qu'ils avaient took out the god out of Godzilla. Et il y a un des dialogues où ils se moquent, un qui dit il s'est passé un truc à New York. Bah non, c'est pas Godzilla, lol. Et dans Godzilla Final Wars, il y a carrément le vrai Godzilla qui poutre la tronche de Zilla. Comme ça, c'est fait.
Ok, donc ils voulaient un truc qui ressemble à un T-Rex pour surfer sur Jurassic Park, quoi.
Oui.
Mais tu vois, en passant en survolant comme ça les trucs d'exploitation de série B, série Z, les trucs où c'est un peu anecdotique, les trucs qui sont un peu déclinés, genre Godzilla, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas trop. Les seuls descendants réels de Jurassic Park sont les suites de Jurassic Park et les Jurassic World. Mais est-ce qu'il y a un film que vous pouvez me citer qui est vraiment une sorte de copie conforme, comme il y a eu sur quasiment tout? Genre, Les Dents de la Mer a eu des copies quasi conformes, au moins quelques-unes, des trucs qui ont vraiment essayé de refaire la même formule. Est-ce que Jurassic, il y a des gens qui ont vraiment essayé?
Je trouve que King Kong de Jackson n'est évidemment pas un nouveau Jurassic Park, mais prend vraiment en compte les acquis de la saga pour proposer sa version, s'en inspirer beaucoup, rajouter des trucs, etc. Et faire des dinosaures quand même des grandes stars du film parce qu'ils ont deux des meilleures scènes, sinon les deux.
Ouais, mais
scènes.
Encore une fois, c'est des morceaux du film, quoi. C'est
certes, mais
pas un film où les dinosaures sont au centre, ne sont pas un gag, ne sont pas des figurants.
Ouais.
En fait, c'était censé être 65.
Oui, sauf que là, pour le coup, c'est littéralement des figurants, quoi.
Oui, c'est ça qui est paradoxal, effectivement, parce que dans le pitch, c'est exactement Jurassic. Ouais. Ça aurait été peut-être la copie la plus conforme de Jurassic, sauf que tu vois pas les dinosaures et que le film est nul et que y a rien avec des dinosaures, quoi. Il y a deux scènes.
Mais c'est, de toute façon, c'est. Bon, on avait reparlé.
Il reprend la scène de la cascade et tout.
On avait été en avant-première, d'ailleurs, avec. T'étais là
avec
ou
Axel,
pas
non
je me rappelle plus.
Non, Axel était de son côté.
Non, j'ai pas vu ça en
avant. Mais je crois que j'étais avec Judith et qu'on s'était tous les deux.
Ah ouais
elle venait d'arriver et on s'était tous les deux désespérés du truc. Où vraiment, au début, t'as des genres de méga. Ils arrivent sur la planète, on te dit il va y avoir des dinosaures et t'as des gigantesques plans larges et. Il n'y a rien. Ouais. C'est des plans de vide. Vous avez un budget de plusieurs dizaines de millions de dollars. Incrustez-moi des dinosaures là-dedans. Quoi. C'est... Quel enfer.
Ouais, donc avant 65, qui est sorti en 2023, il y a peu grand-chose quoi, avant d'arriver à Jurassic World. On a eu que des morceaux, des petites déclinaisons. Bon, on peut s'arrêter sur King Kong dans le sens où, effectivement, c'est à la fois les scènes des dinosaures. Je suis pas du tout un grand fan du film, mais les scènes du dinosaure sont effectivement très cool. Mais ça reste des morceaux, comme si personne savait trop quoi faire des dinosaures.
C'est vraiment Jackson qui prend les dinosaures de Jurassic Park et qui met de façon la plus bourrin possible.
Et cartoonesque.
Pousse le truc à 2000. Enfin, j'ai revu là avant la scène avec les diplodocus. C'est un bowling de diplodocus.
Ouais.
C'est n'importe quoi. Et la scène avec les T-Rex, que moi je trouve. Enfin, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma de Jackson, c'est complètement ahurissant, quoi. C'est vraiment, c'est du brain dead avec 200 millions de dollars où Kong il balance Naomi Watts, il jongle avec Naomi Watts carrément en se battant contre trois T-Rex différents. Enfin, c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est ça que tu sens qu'il ne s'arrête pas avec le truc.
Ouais, ouais.
Alors, moi, c'est ce que j'aime pas dans la scène de la vallée avec les
Diplodocus.
Les Diplodocus. Enfin,
je crois
les
que c'est
les Raptors. C'est pas des Raptors, mais on va dire des Raptors.
Ouais.
On va dire des petites dents tranchantes. et qui se courent après. C'est vraiment effectivement un effet bowling, mais je trouve que déjà visuellement, je trouve pas ça très beau. Les vraiment, je trouve que c'est un des moments du film qui est les moins beaux. Les moins fins techniquement, même si c'est amusant parce que c'est cartoonesque, mais du coup je trouve que ça
il zigzague entre les diplodocus qui s'écrasent et de temps en temps t'as Adrien Brody qui balance une rafale de calage pour déglinguer un petit dent tranchante là. C'est vraiment très très drôle.
Mais par contre celle des T-Rex, j'avais oublié à quel point ça ne s'arrêtait jamais. Qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Et le moment où Naomi Watts se cache, tu sais, elle se cache à plat ventre, tu te dis putain elle a échappé à l'autre, et là le plan dézoome un peu, il se décale un peu, petit panneau, mais c'est pas une branche, c'est un T-Rex qui la regarde, et là c'est sa dent, très bien. Et il y en a un autre arrive quand ils se battent.
Et après, elle passe de museau en museau de T-Rex.
Elle passe 10 minutes à hurler en tous les sens. C'est quand ils finissent dans les lianes avec vraiment la balançoire et tout ça.
Ouais.
Elle finit d'ailleurs à un moment accrochée à une dent dans la mâchoire quand elle tombe.
En fait, au début, elle s'accroche dans les trucs et elle doit échapper au T-Rex qui essaye de la boulotter. Et tu te dis, oh putain, déjà, c'est un délire. Genre, elle vient de tomber de 14 km de hauteur, elle s'accroche aux lianes, il y a 3 T-Rex qui essayent de la boulotter. Et là, tout d'un coup, le seul truc auquel elle peut s'attacher, c'est carrément la dent du T-Rex dont la partie supérieure de la mâchoire est retenue par les lianes. Et elle tombe pour tomber sur le museau du deuxième T-Rex. Enfin, t'as pas de bol, quoi, quand même.
C'est vraiment le ping-pong du truc.
Ouais.
Et à la fin, il explose.
Le ping-pong de Peter Jackson.
Et à la fin, il éclate la mâchoire du T-Rex exactement comme celui de 33.
Et il essaye de rejouer avec
ouais,
après.
C'est amusant, ça. Mais oui, c'est vrai que ces scènes-là sont très cool, mais encore une fois, c'est un morceau, une parenthèse dans un film entier.
C'est de l'habillage généreux. C'est vraiment en mode, allez, tenez, c'est cadeau. Ouais. Je sais que ça vous fait... kiffer, mais...
Ce qui explique peut-être pourquoi quand Jurassic World 1 est sorti en 2005, Jurassic World 1, ouais, en 2015, pardon, il a été un tel succès. C'est qu'en fait, il n'y avait aucun autre film qui avait rempli cette mission de giga spectacle avec plein de dinosaures quasiment du début à la fin.
Là, il reprenait une marque établie en plus, donc il y avait la sécurité de savoir, on est en terrain connu.
Et c'est vrai que personne n'avait investi ce morceau du cinéma à grand spectacle depuis les Jurassic Park, depuis 2001 avec Jurassic Park 3.
Bah, c'est vrai que contrairement au requin, c'est resté un terrain... Il y a eu des milliards de Z et des milliards de trucs qui sont pris, mais on a eu assez peu de trucs comme 65, par exemple, qui ont essayé de se mettre dans la continuité.
C'était une bonne idée, même
de rester
une
référence trop grosse. Mais je pense que contrairement à un film de requin, le problème des dinosaures, c'est que c'est pas... Enfin, en fait, dans les requins, le méchant, c'est moins le requin que l'eau. Alors que dans les films de dinosaures, il faut mettre des gros monstres, donc c'est vraiment une question de budget assez basiquement, je pense.
Oui, c'est vrai que tu vas pas avoir un personnage se noyer dans un film de dinosaures, dans une flaque de boue, en essayant de ramper ou quoi. Oui, ça reste le danger principal.
Et en plus, c'est vrai que... c'est vrai que rapidement, ça devient juste un monstre, un gros monstre, donc pourquoi forcément un dinosaure plutôt qu'un truc comme Godzilla, des choses comme ça. Parce que comment tu le caractérises autrement que il est gros, il essaie d'être écrasé.
Le dinosaure est une franchise qui n'est pas une franchise. On sait tous ce que c'est, on s'y rattache, on les aime, on les connaît, alors que c'est quelque chose qui existe vraiment. Donc c'est assez facile de s'y rattacher en tant que spectateur. On a tous nos préférés, voilà, machin. Enfin, sauf toi, bien sûr. C'est ça, et c'est des images instantanément reconnaissables, mais encore plus depuis de Jurassic Park. Donc
si on doit donner les meilleurs films de dinosaures, c'est un film où ils sont pas les stars, et peut-être la série Primal de Tartakovsky, où c'est un des personnages principaux avec le héros, le caveman.
Clairement caractérisé comme tel, pour le coup, parce qu'aucun des deux ne parle.
Et puis, après, il y a tout ce jeu de c'est l'homme qui est plus bestial que la bête, qui elle est plus humaine. Enfin, de toute façon, il est incroyable, et je crois que l'épisode qu'on préfère tous les trois, c'est celui avec les dinosaures zombies.
Plague of Madness, l'épisode 7 de la saison.
À part Jurassic Park, je pense, le truc le plus incroyable qui a jamais été fait sur les dinosaures.
C'est 20 minutes d'apnée.
Ouais. C'est la folie.
Et pour le coup, il y a une émotion que je trouve énorme quand à la fin, ce dinosaure périt dans la lave, c'est ça ? Il se fait tuer dans la lave.
Il est déjà tout décomposé et tout.
Si quelqu'un en dehors de la salle de réunion nous écoute, regardez Primal, c'est incroyable.
Non, juste se dire le point de départ, sans dire ce qui se passe après, je vais le revoir après, je pense d'ailleurs, c'est que tu as un endroit idyllique avec des dinosaures et qu'un dinosaure infecté arrive par un truc qui a l'air horrible et qui contamine tout le monde et que c'est le chaos qui commence à partir de là. Donc il vient briser quasiment le paradis où tout a l'air magnifique. Il arrive avec une gueule de zombie absolument horrible et l'effet de contamination est dévastateur et ne s'arrête pas.
Et dans la catégorie surenchère, alors celui-ci se place très très haut.
C'est vrai que c'est un peu en apnée, comme tu dis. Et sur les trois derniers Jurassic World, alors à part le troisième qui est nul de A à Z, pourquoi tu défends, toi, Mathieu, le premier Jurassic World Non, parce que je trouve qu'il
y a
quand même...
à cette question.
Non, mais les scènes où tu dirais que vraiment ils savent bien exploiter les dinosaures.
J'avais fait un dossier à l'époque de U3, justement, où je reprenais plan par plan tous vos dossiers pour dire que c'était nul en disant en fait non, chaque c'est argument. Pas si mal. Non, mais je suis d'accord pour dire que le film a de gros défauts, que la mise en scène n'est pas toujours inspirée, etc. Mais la reprise de la métaphore entre guillemets de Spielberg, si elle n'est pas très subtile, elle a le mérite de vraiment prendre en compte ce qu'est Jurassic World. C'est-à-dire l'Indominus Rex du cinéma hollywoodien, ce qui, je trouve, le concept même d'avoir un dinosaure génétiquement modifié, franchement, j'ai pas tant de problèmes que ça, comme ils disent dans le film eux-mêmes. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt de ce que ça raconte, le film. En fait, tout le monde a retenu cette phrase qui est pas subtile, d'accord ? Les gens veulent plus dedans. Voilà. Qui, évidemment, on est d'accord, veut dire les gens en veulent toujours plus dans le blockbuster américain, donc on va leur en donner. Mais pour moi, la phrase la plus intéressante du film, c'est donc la phrase du docteur Vu, c'est ça, qui est le gars qui fabrique les dinosaures, où je crois que c'est le personnage de Chris Pratt qui lui dit « Mais vous avez fait un dinosaure génétiquement modifié, c'est complètement con. » Et lui, il répond « En fait, tous les dinosaures, ils sont génétiquement modifiés. » Et c'est très vrai à Hollywood aussi. Enfin, c'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, un blockbuster, ça reste un blockbuster. Hein. C'est un truc par définition artificielle, par définition qui veut tout tirer de l'argent. Et je sais pas, je trouve ça pas inintéressant que le fait de mettre ça en perspective, la fameuse scène avec les talons et le T-Rex, excuse-moi, mais je la trouve trop bien. Et c'est une bonne manière d'utiliser le fanservice parce que le T-Rex représente le blockbuster à l'ancienne. Et oui, il va poutrer la tronche de l'Indominus Rex. Et oui, c'est pas subtil, et oui, tout ce que tu veux. Mais symboliquement, ça se tient en fait. Et je trouve que le fanservice est certes très envahissant, mais pas si bête dans l'idée que le film se passe exactement le même laps de temps qu'il y a eu entre nous et Jurassic Park. Et donc les personnages, c'est nous en fait, c'est les gamins qui ont grandi avec Jurassic Park. Il y a un des personnages qui certes est très mal écrit, on est d'accord, mais il a un t-shirt Jurassic Park.
Exactement comme Mathieu quand il fait des vidéos chez écran large.
Exactement, il a ses figurines de dinosaures sur son bureau, exactement comme Mathieu à écran large. Donc c'est...
Il connaît nous des dinosaures exactement comme Mathieu.
Non mais tu vois, c'est ça, c'est le truc du on refait l'erreur et tout, c'est, ils le font pour la même raison que nous on adore. Enfin, il y a ce genre de mise en scène de la passion pour le danger, le frisson du dinosaure, qui est pas mal. Je trouve que le film met en scène un fantasme que moi j'ai eu depuis le début, c'est-à-dire voir le parc marcher. Et je suis d'accord que le moment où ils le détruisent, c'est un peu décevant parce que c'est que les ptérodactyles, mais rien qu'il y a un plan que j'aime beaucoup et qui, je trouve, est très bien mis en scène. C'est le premier plan où on voit le parc, ils arrivent dans leur hôtel, le plan passe devant la fenêtre et on voit le parc. Il y a un surcadrage en fait avec la fenêtre, et là le plan traverse la fenêtre dans le surcadrage et survole toute l'allée du parc. Et moi je veux voir ça depuis 30 ans par Jurassic
Park. Que tu parles de cette scène parce que justement, le revoyant,
et la musique, pardon, je te coupe, mais non, à ce moment-là, la musique de Giacchino, incroyable.
Voilà. Mais justement, moi c'est ça que je trouve assez étrange et qui me déstabilise, c'est que quand tu arrives sur l'île dans le parc de Jurassic World avec les gamins, t'as le thème, le truc commence à charger. Tu te dis, ok, l'émerveillement est là. Sauf que l'émerveillement, cette musique se fait sur les escalators, se fait sur la chambre d'hôtel de luxe, et finalement...
Il y a un peu d'ironie là-dessus aussi.
Oui, mais justement, ça c'est mon problème avec ça. Et la grande musique triomphante se fait sur, tu ouvres la fenêtre et tu survoles le parc, tu survoles les allées avec les magasins de merchandising comme à Disneyland. Et oui, d'accord, mais ok, mais en fait, mon problème avec ça, c'est que t'as conscience que t'arrives à un degré d'exploitation, que la seule magie qu'il peut y avoir, c'est avec un degré déjà de non-émerveillement, de non-innocence sur ça, et qu'en fait, tout ce que t'as raconté maintenant, c'est t'émerveiller sur juste la machine que c'est. Et en fait, ça met en scène ça d'une manière que je trouve hyper bizarre.
Ouais, mais justement, je trouve que ce qu'il y a derrière la phrase de vous et l'histoire du T-Rex qui revient, c'est qu'en fait, ton job en tant que spectateur de blockbuster, c'est de passer outre, tu vois ce que je veux dire, de te dire, oui, certes, c'est humble, sans pour autant ne pas critiquer quelque chose. C'est le cas de l'Indominus. Les critiques envers l'Indominus dans le film sont, elles sont justifiables. Enfin, je veux dire, tu peux dire que l'Indominus, c'est une mauvaise idée, alors que le T-Rex, en soi, il a une raison de vivre, et à la fin, c'est un héros. Un peu comme Godzilla d'ailleurs dans les films post le premier film. C'est-à-dire que ça représente une forme de divertissement qui certes est compromis comme toute forme de divertissement, mais avec laquelle t'es capable de passer outre. Donc concrètement, le premier Jurassic Park, le blockbuster à l'ancienne, là où l'Indominus c'est vraiment c'est Jurassic World 3. C'est-à-dire le truc reconstitué à partir de bout de Frankenstein pour juste prendre ta thune et c'est tout quoi. Et je trouve que c'est pas si mauvais. Et la scène du Mosasaur où ils bouffent le requin là, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un spectacle dolphinarium, donc un truc par définition qui peut causer beaucoup de souffrance, etc. Mais dans les faits, bah c'est trop cool, c'est un Mosasaur. Voilà, et donc l'idée c'est tu gardes l'esprit critique. Et il y a par exemple le personnage milliardaire qui a été beaucoup décrié et que je pense que c'est un peu le Elon Musk de ce parc-là, du gars qui crée le
Elon
truc.
Elon Musk, j'ai l'impression qu'il y a 25 films qui sont dit on est trop malin, on est edgy, il y a un Elon Musk.
À l'époque,
Musk
déjà, Elon Musk, quoi. C'était pas Elon Musk d'aujourd'hui.
Donc, ouais, mais d'accord. Voilà.
En fait, je pense que les gens. Enfin, j'ai eu des gens dans mon entourage qui ont assez mal interprété le personnage, qui ont fait un nouveau Hammond, tu sais, le mec un peu sympa et tout, qui est le vecteur de Spielberg pour être le gars qui crée le divertissement. Mmh. Alors que pas du tout, c'est l'antithèse totale de ce qu'est Spielberg. C'est-à-dire, le mec, il se la joue un peu cool parce que t'as vu, il pilote un hélicoptère, sauf qu'à la fin, c'est lui qui se crache avec son hélicoptère et il meurt comme une merde. Parce qu'en fait, il est con, c'est juste de la com. Ce mec, c'est de la com. Et le truc du T-Rex, c'est qu'il va. Il traverse la com, il détruit les trucs de merchandising, etc. Et Spielberg, tu disais qu'il y avait 250 millions de dollars pour. Budget marketing pour Jurassic Park 2, n'empêche qu'à la fin, ce que tu retiens de Jurassic Park 2, c'est pas son marketing, c'est le film, alors que Jurassic World 3, on se souviendra plus du marketing que du film. Voilà.
Ben, moi, je suis pas sûr de me souvenir beaucoup du premier Jurassic World par rapport à la campagne marketing de l'époque. En fait, ce qui me dérange, c'est que je vois très bien l'idée de base et je vois ce qu'il essaye de raconter, et en même temps, quand je vois le film, j'ai l'impression que justement, ils tombent dans ces travers-là, notamment avec autant de personnages. Tu remets des gamins qui sont inintéressants possible, tu mets leur personnage des parents, tu mets l'assistante qui est inintéressante mais elle se fait bouffer. Waouh, qu'est-ce que c'est
mais
hyper
qui a un meurtre
osé.
Hyper cool.
Mais je trouve ça nul. Tu tues le personnage qui est le plus antipathique du film de la manière la plus cruelle. C'est genre le degré zéro, tu vois, de l'investissement et de pour moi, c'est prendre les gens pour des cons, tu vois. Il n'y a aucun danger sur les personnages principaux qui sont attaqués de tous les côtés. Il y a un moment, Bryce Dallas Howard, elle monte sur le toit d'une voiture en pleine invasion de ptérodactyles pour crier le nom des gamins alors que des gens au sol se font attaquer. Tu sais, en fait, c'est constamment ce genre de foutage de gueule. Les gamins ne se font pas rattraper par l'Indominus Rex alors qu'ils courent dans un champ jusqu'à ce qu'ils sautent dans une cascade. En fait, c'est que des trucs comme ça. Je sais que c'est les codes, c'est pas grave, mais il y en a juste tellement jusqu'à la fin du film. Et encore une fois, je trouve qu'à la fin du film, ça devient beaucoup moins amusant. En fait, à partir du moment, je trouve que la première partie, notamment l'évasion de l'Indominus Rex avec les voitures, quand le mec se fait tuer et tout, c'est assez cruel et assez bien foutu. Il y a une vraie tension. Et à chaque nouveau palier de spectacle, c'est de moins en moins intéressant.
Pour le coup, je suis assez d'accord. Jusqu'à la toute fin, qui me fait toujours rire. Parce que je trouve que c'est le truc le plus incohérent narrativement, enfin le plus incroyable, c'est qu'ils sont dans le hangar et tout va bien, alors que la Claire, elle est coupable, enfin, elle va passer les 30 prochaines années de sa vie en prison. Pourquoi il la laisse encore debout? C'est quoi sa rédemption à la con, en fait? Non.
Bah, dans le deuxième, elle veut protéger les dinosaures.
Ouais, non,
et elle met parfois des chaussures qui sont pas des talons aussi.
Ah oui, là, cette scène où elle se pète les talons, hein, c'est bon, je suis prête à aller vadrouiller dans la jungle.
Elle se pète pas les talons, puisque jusqu'à la fin, elle les porte, elle court. Avec le T-Rex derrière elle, avec des talons hauts. C'est justement tout le gag.
Tu sais avec quoi je confonds? Je confonds avec, je crois, une des suites de Tarzan de Disney. Au bout d'un moment, il y a un personnage féminin qui est dans la jungle et qui pète ses talons comme ça parce qu'elle se rend compte que c'est pas pratique d'être en talons.
Et ce qui vient de La Poursuite du Diamant Vert, réalisé par Robert Zemeckis, où Michael Douglas pète les talons de Kathleen Turner en disant, elle dit, elle était italienne. Et il lui dit, maintenant elles sont colombiennes. Elle doit marcher avec.
Faudrait quand même qu'on revienne sur la production du film, parce que là, on est en mode, c'est quelque chose d'assez tiède et tout, mais le film, c'est un peu un truc de Frankenstein, même la trilogie, la dernière trilogie, c'est un monstre de Frankenstein qui a été rapiécé. Parce que, comme je le disais juste avant, Jurassic Park 4, qui est devenu Jurassic World 1, il a été discuté dès fin 2001-2002, donc juste après la sortie du 3. Et de base, ça devait être quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, où en fait, t'avais quasiment le retour de tous les personnages masculins, sauf Ellie Sattler, je l'ai pas trouvé cité, c'était vraiment juste John Hammond, Ian Malcolm et Alan Grant, qui en gros étaient envoyés en mission au Costa Rica, pour arrêter la propagation de dinosaures qui, en fait, depuis Jurassic Park 3, arrêtent pas de se reproduire dans tous les sens et ont atteint le continent.
Ce qui ressemble au Monde Perdu, le livre.
Et ensuite, ça a été pris dans l'enfer de développement, où il y a je sais pas combien de scénaristes qui se sont mis dessus. En 2004, t'as John Sayles qui a débarqué en tant que scénariste. Et là, clairement, c'est parti en cacahuète totale. Parce que là, normalement, c'était censé s'intéresser à Nick, un mercenaire qui est chargé par John Hammond d'aller récupérer la bombe de Moussa Razé sur Isla Nublar.
Il s'y accrochait, quoi.
Sauf que Nick se fait capturer par un méchant baron qui l'emmène dans les Alpes suisses dans son QG de méchant.
Et James Bond arrive.
Et là-bas, en fait, dans ce QG, il fabrique des dinosaures soldats hybrides avec de l'ADN humain.
Ah. Oh.
Voilà, donc en fait la fin du 2 où on apprend que Maisie, c'est ça son nom, La gamine clone, ouais.
Oui,
ouais,
ah, oui.
Voilà. Donc quand t'apprends que Maisie, en fait, c'est un clone humain et tout, c'est pas si what the fuck par rapport à ce qu'on était censé avoir avec des dinos soldats humains.
Quelle idée de merde, hein, d'ailleurs, la gamine.
Voilà.
Dans
oui, et encore mieux, t'as Trevorrow aussi qui avait en gros expliqué qu'il avait lu une des versions du scénario où le personnage, bon, il s'appelait Vance, apparemment. Voilà, il avait changé de nom. Il sautait d'un hélico avec une meute de raptors autour de lui dans un raid militaire pour arrêter un trafiquant de drogue en Colombie.
Mathieu a envie de voir ça.
En fait, dans le premier Jurassic World, déjà cette scène que je trouve absolument ridicule où t'as Chris Pratt qui est en espèce de quad avec son armée de raptors, là, bah au final c'est la version très édulcorée, je pense, de Vance.
Sachant que ça vient des livres et que Spielberg regrette de pas l'avoir mis dans Jurassic Park 2.
Attends, ça le coup des hélicos avec les raptors.
Non, des motos.
Ah, ok.
Des véhicules, non pas les hélicoptères. C'est qu'en fait, dès le début, genre dès le 2, il y avait des idées cheloues qu'ils voulaient mettre dans les films. Mais c'est vrai que pour le coup, dans la trilogie Jurassic World, il y a des trucs que j'aime bien. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout bien géré et pas assumé d'ailleurs l'idée de la gamine. Tu t'en fous en fait, après dans le troisième. Il faut juste essayer de la sauver parmi 15 autres personnages.
Si je trouve justement qu'elle a justement sa petite quête, sa crise existentielle là, qui me fait chier. C'est nul, ça prend du temps.
En fait, à la fin du 2, l'enjeu est-ce que tu appuies sur ce bouton ou pas ? Si tu le fais, ça change absolument tout. Et ils ont appuyé sur ce bouton en termes d'écriture et d'enjeu et d'ambition. Et en fait, après, quelqu'un dit, en fait, il y avait une sécurité, du coup, on a refermé le bouton. Parce que dans le troisième, ce n'est pas assumé. Je me dis, mais comment ils ont pu faire un film qui détruit et revient en arrière sur l'idée majeure de la fin du 2, quoi. On dirait vraiment que personne n'avait réfléchi à ce qu'il y avait après.
De toute façon, c'est incroyable.
Oui. Surtout que le 2, j'ai mis vraiment du temps à l'apprécier, parce que autant la première partie sur l'île, je la trouve incroyable, et après, en fait, juste, je ne pardonnais pas cette histoire de clone humain et tout qui libère les dinosaures. Moi, vraiment, j'étais restée sur la stupidité de cette proposition-là. Et petit à petit, quand on a vraiment commencé à parler du 3, je me suis dit, mais alors là, ça veut quand même dire qu'on est dans un monde avec des dinosaures de partout et ça va être ça le nouvel enjeu du truc au final.
Quelle naïveté.
Que ce soit un clone, on s'en fout. Enfin, ouais. C'est vraiment accessoire. Laissez-moi kiffer un monde de dinos ouverts, quoi. En fait, non.
Ah ouais, non, alors ça.
Et ils se sont concentrés sur la pire partie qui est, en fait, c'est un clone humain et c'est sa propre mère qui est la version originale qui l'a portée et qui lui empêche d'avoir des maladies et blablabla.
Ah oui, t'as des flashbacks enregistrés sur. Mais de toute façon, le gros problème de Jurassic World 3, c'est que. Normalement, a priori, la grosse menace pour l'humanité serait qu'il y a des T-Rex, des ptérodactyles et des raptors en liberté. A priori, c'est quand même sacrément emmerdant. Mmh. Et en fait, le vrai danger devient une armée de sauterelles préhistoriques qui bouffent le blé, en fait, c'est ça. Non mais vraiment, le danger, c'est ça.
À la rigueur, si ça avait été couplé à la menace des dents tranchantes comme ça, bah en fait, qui peuvent tout simplement tout péter et te bouffer quand ils veulent. Genre, le fait qu'en plus, tu rajoutes des invasions d'insectes et effectivement, qui bouffent la végétation, ou que tu vois en fait l'état de la terre, bah ouais, en fait, il y a trop d'énormes animaux à nourrir qui se nourrissent de tonnes et de tonnes de végétation qu'on n'a plus forcément sur Terre. Il y aurait eu un truc super intéressant. À la fin, ils préfèrent mettre un mosasaure et une baleine qui nagent ensemble comme ça, et des chevaux qui courent avec le tricératops derrière.
Pauvre enfin, mosasaure, respectez-le, putain.
Ça fait pitié, quoi.
Ouais, mais le fait qu'en plus toute l'action du film se resserre à la fin dans une nouvelle vallée qui ressemble juste à une nouvelle île,
oui,
et donc c'est pas
c'est
du tout
un nouveau
parc, que.
Ouais. Attends, c'est d'autant plus triste pour Jurassic World 3 qu'en plus le bestiaire est trop bien fourni. Il y a plein de dinosaures que t'es trop content de voir pour la première fois. Le giganosaure, let's go, merci. Enfin, il le ramène. Enfin, ça fait quelques années qu'on sait que le T-Rex c'était en gros plus ou moins un vautour avec des grosses cuisses. Merci d'avoir ramené un truc aussi vénère, et en plus le design est cool, je trouve. Juste. C'est très mal utilisé. Il y a le Therizinosaurus, j'arrive jamais à vraiment dire son nom, mais le truc avec les longues griffes là,
oui,
qui est vraiment un dinosaure excellent et qui est assez unique pour le coup, tu sais, qui est vraiment à part de tous les autres dinosaures.
Il a vraiment existé lui.
Oui.
Incroyable. Et qu'est-ce qu'il foutait avec ça, quoi.
C'est nul.
Scène là où Bryce Dallas Howard est
sous l'eau,
là,
c'est le seul plan que je retiens
en termes
du film.
En termes de bonne idée gâchée, c'est en fait je comprends même pas comment il est censé. C'est comme dans Sans un bruit, il est censé être très fin niveau mais en même temps, tu te dis, mais il y a plein de moments où elle fait du bruit. En fait, j'arrive pas à comprendre quel est l'enjeu et quel est le degré de sensibilité de la bête. Mais bon, si c'était que ça le problème. Donc globalement, c'est un énorme ratage. Et le deuxième, on est d'accord pour dire que c'est le mieux, ou toi, tu penses
Honnêtement, je le réévalue à la hausse à chaque fois que je le revois.
Maintenant, je l'ai revu plusieurs fois, je dirais même que c'est un film que j'aime beaucoup.
Ouais,
j'aime plutôt bien. J'avais dit ça la dernière fois à la rédac, on m'avait un peu flingué. Mais,
Jurassic World 2
Non, Jurassic World 2. C'est le meilleur film de Bayona.
Ah oui. Oui, c'est vrai que tu détestes Impossible et que quelques minutes après minuit, tu t'en fous aussi.
Ah ouais, je trouve ça vraiment pas bien.
Bon, peut-être que je serais un peu dans ta team pour le coup. Faudrait que je réfléchisse.
Parce que j'avais dit ça et Antoine a fait une descente d'organes en direct.
Le fameux sacrifice anal.
Ouais.
Et vous avez regardé la colo du Crétacé, puisque comme on parle d'exploitation, pour le coup, Jurassic n'a jamais failli à sa mission d'exploiter à fond le filon de manière
épisode. J'ai vu un petit peu le principe, genre justement le fait que toute la destruction du parc dans Jurassic World ce soit un énorme angle mort. Là, on me disait, en fait, on va te montrer la destruction du parc, en fait, on va te montrer ce qui se passe à Jurassic World pendant les événements du premier film. Bon, c'est animé, c'est moche, mais sur un malentendu, ça aurait pu être sympa, j'ai tenu un épisode, parce que t'es avec une bande de gamins insupportables. Et ensuite, je m'étais un petit peu intéressée quand on avait fait le papier sur qu'est-ce que ça pourrait être Jurassic World 4, où je m'étais dit, peut-être essayer de raccrocher ça à la colo du Crétacé, où là, visiblement, ça partait un peu en couille, parce que c'était plus seulement les animaux du Jurassic, mais ils faisaient aussi les tigres à dents de sabre et les trucs comme ça, et il y avait des espèces de robots dinos, je crois, genre ils arrivaient sur une île de... c'était nul. Okay.
En tout cas, selon le Discord, Jurassic World 1 c'est pas si mal, hein, parce que j'avais fait un sondage aussi, un peu comme la dernière fois avec Conjuring. Bon, ouais, Jurassic Park 1, 2 là en tête.
Ah ouais, okay.
Oui.
Je pensais que le 2
à 4,7 sur 5 de moyenne, parce que tu sais, je fais noter sur 5, donc les gens aiment plutôt bien sans surprise. Et Jurassic Park 2 à 3,4, mais ça reste large. Tous les autres sont à 2. Hein, donc
Ah ouais, tu vois, j'aurais pas pensé que Le Monde Perdu était si haut. J'aurais pensé qu'il était pas mal détesté.
Beaucoup de gens qui l'apprécient. Okay. Alors que, du coup, le troisième, c'est Jurassic World 1. Les gens le préfèrent à Jurassic Park 3, qui est avant-dernier, devant Jurassic World 3, que vraiment tout le monde déteste, hein, parce qu'il est à 1,3. Soit, je crois, plus bas que tous les films du Conjuringverse, ce qui n'est pas peu dire, mes amis.
Et Jurassic World 2, il est où? Il est au milieu, alors?
Jurassic World 2 est quatrième. Donc, devant Jurassic Park 3 et Jurassic World 3.
Okay.
Donc ouais. Non mais moi aussi je suis un peu étonné de ça. Je pensais vraiment que le 2 était quand même plus apprécié dans les Jurassic World.
Tu sais qu'il a été tellement... Alors que j'ai l'impression qu'il te donne exactement ce que tu pourrais vouloir, comme le premier a l'air de te le dire.
De ce que j'ai lu, des débats qui sont faits à côté sur le channel en dessous, le joueur leur reproche vraiment ce côté un peu débile dans la narration et l'histoire du clone, évidemment.
D'accord. Parce que bon, Jurassic World 1 c'est quand même sacrément débile aussi. Hein. Ouais. T'as genre les deux personnages de geek au poste de contrôle, tu vois, pareil. Ils me disent, mais pourquoi vous surchargez votre histoire? Pourquoi il est parent des enfants que... Oh là. Puis bon, les deux personnages de Owen et Claire, j'ai trouvé vraiment pas bien.
Si Claire était vraiment restée une connasse du début à la fin, moi j'aurais bien aimé son personnage en fait, t'es une mauvaise tata, tu laisses tes neveux en danger et tout, et en plus c'est toi qui es quand même assez directement responsable de tout ça, mais vu qu'elle a son grand arc de rédemption avec Owen,
vu qu'elle a été gentille avec ses Yangfang, elle va échapper à la prison, bracelet électronique.
En plus, c'est un peu le Nicolas Sarkozy de Jurassic Park. T'as l'impression qu'ils sont passés de... Ils ont eu un date et ça s'est pas très bien passé, du coup ils tournent autour. Ah, on a un vieux couple pantouflard dans le troisième. C'est trop bizarre, il y a plein d'étapes qui ont été grillées. T'y crois pas une seconde.
Bah, ils ont eu une gamine clone. Ouais, c'est bon, voilà.
Ça résout plein de problèmes, ça te fait prendre 10 ans de couple d'un coup. Et donc dernièrement, on a dit il y a Primal, il y a eu 65. Ah, il y a le jeu Exoprimal aussi. Exoprimal.
Je n'y ai pas joué.
Qui est fait par Capcom, qui a fait Dino Crisis et qu'on a essayé de nous vendre comme un Dino Crisis. Alors, je ne suis pas tombé dans le panneau, ça n'a pas du tout l'air d'être comme Dino Crisis, quoi. Ça n'a même pas l'air d'être aussi amusant que Dino Crisis 2. Ça a l'air d'être beaucoup plus bourrin multiplayer et tout. Donc, et à l'avenir, à l'horizon, il y a des films Jurassic, parce qu'on sait que Jurassic World ou Jurassic Park, le nouveau, c'est pas très clair. Ils ont clairement dit à un moment qu'il y en aurait d'autres, que c'était pas fini. Ils ont même dit, producteur, je crois, Frank Marshall a même dit, les personnages nouveaux qu'on a mis dans Jurassic World 3 sont là pour être au premier plan des prochains. Mon Dieu!
Attends, les nouveaux personnages de... ils sont tous fades, qu'ils n'ont pas...
Ils sont fades,
ils avaient rien à jouer en même temps.
Ah, mais je vois pas à quel moment ils pourraient se dire qu'on va prendre un des personnages pour faire la suite, mais bon, il n'y a aucun... C'est marrant, d'ailleurs, comme après la trilogie Jurassic Park, le quatrième épisode ne s'est pas enclenché vite, là, ils ont fait une trilogie, le troisième a fait 1 milliard, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et il n'y a pas encore de suite annoncée. C'est amusant comme...
Est-ce qu'il s'est un peu... Parce que bon, c'est toi qui avais fait un papier dessus, mais la comparaison entre la façon dont ils ont géré la trilogie de Jurassic World et la trilogie Star Wars postologie est quand même très similaire, avec le premier film qu'on confie à Monsieur Yes Man qui fait un film potable, le deuxième film confié à un mec qui sait faire de la mise en scène qui fait un film sympa, et le troisième film confié au même Yes Man qui fait n'importe quoi avec la mythologie élaborée d'un précédent, la façon dont ils gèrent ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont c'est un peu la même raison pour laquelle ils font plus trop Star Wars. Alors certes, il n'y a pas 14 séries Jurassic Park,
oui, c'est ça qui est étonnant, ouais.
Mais peut-être qu'ils sont en train de se poser, de se dire comment on peut éviter l'overdose.
À la rigueur, l'espoir de revoir des dinosaures, et encore, franchement, après ce que The Meg 2 nous a foutu, c'est dans The Meg 3, peut-être.
Ah, c'est vrai que tu peux mentionner les dinosaures de Meg 2, juste pour rigoler. Ouais.
Parce que niveau argument marketing, dans The Meg 2 aussi, c'était un des arguments. Il y avait toute cette scène dans la bande-annonce où t'es au temps de la préhistoire, comme le début de Jurassic World 3, en fait. Et au final, elle dure combien de temps, la séquence?
Bah, le temps de présence à l'écran du dinosaure, 7 secondes à tout casser.
C'est ça. Encore, Jurassic World 3 ne commence pas par ça, puisque ça a été coupé du film. C'était un truc sur Internet, on est d'accord, cette intro.
Ah, tu parles de la scène avec
la préhistoire, où tu vois.
L'écran et tout, là. Ah oui, la scène avec la préhistoire. Ah ouais. Oui, bah oui.
Ah bah oui, c'est super vrai, parce que c'est le JT, là.
Ils avaient mis sur YouTube, en mode, le début du film, on l'a vu, et moi, franchement, je me suis dit. Eh hey, mais c'est trop cool.
C'est trop bien.
Une ellipse de 65 millions d'années.
Avec le fameux
c'est hyper marrant. C'est 65 millions d'années plus tard. En vrai, c'est drôle. Franchement,
oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée.
Pas trop mal mis en scène. Bon, la projection sur le T-Rex, là, on atteint des niveaux de subtilité qui écratent la stratosphère. Mais je me suis dit, hey, pourquoi pas? On va en projo. Le truc commence. Il y a le vieux JT. Et là, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Genre vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont pas gardé cette séquence qui serait la meilleure du film si elle était encore dans le film? Peut-être qu'ils ont voulu égaliser. Hein,
non, en plus, quand il défend aujourd'hui, il dit, non, mais c'est normal. À l'époque, on avait vraiment tourné ça. On pensait, on pensait que ça allait être le début. En fait, on était en plein dans le montage. Du coup, on a décidé après. Ok, mais c'est quoi ça? On dirait. Tu sais à quoi ça me fait penser? À Alien Covenant. Parce que le morceau d'ellipse entre Prometheus et Alien Covenant a été tourné. Ils ont tout foutu sur Internet avec des scènes où tu vois Noomi Rapace et ça a été coupé. Bah, Jurassic World 3 avec un argument comme ça qu'ils ont présenté comme le début, je trouve ça hallucinant. Mais bon, ça montre sûrement que ça a été fait n'importe comment, comment en termes de gestion.
Et là, ouais, bah, dans The Meg 2, c'était vraiment ce que tu voyais dans la bande-annonce, la séquence que tu vois dans la bande-annonce, t'as peut-être genre 20 secondes de rab dans le film.
Ah, franchement, et encore, j'ai l'impression qu'ils ont peu ou prou repris une immense partie de ce qu'il y avait dans le film pour la bande-annonce. Donc
au final, franchement, je me disais, ah, ça peut être cool si je m'attendais pas à avoir une moitié de film ou même un tiers du film, mais genre au moins une bonne séquence, genre 5-10 minutes où t'es dans la préhistoire et tu te balades entre les dinosaures, mégalodons et tout. Et en fait, non, c'est juste comme ça, balancer. La petite pièce qu'on tend comme ça.
Non, mais j'espère que dans Meg 3, 4 ou 5, il va voyager dans le temps. Et qui va se retrouver à la préhistoire.
Franchement, c'est tellement ce con. Je me dis, ils vont aller encore plus profond que genre l'espèce de terre creuse qu'ils ont découvert. Ils vont trouver un moyen de voyager dans le temps. Ils vont retourner à la préhistoire.
Qu'ils le fassent.
Franchement, on serait pas après.
S'il n'y a pas de film de dinosaures à l'horizon, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Donc, si je résume, personne n'a fait mieux que Jurassic Park 1, c'est très étonnant. Jurassic World 3 est une grosse merde. Les années 90 avec la cocaïne et les dinosaures, c'était quand même assez drôle. Et Primal est un chef-d'œuvre. Et Jurassic World 2 est vachement bien. C'est ça, en gros.
Ouais.
C'est ça.
Et Déborah a un problème avec le petit dinosaure.
De quoi un problème? C'est une histoire
une
d'amour. C'est une leçon de cinéma, de vie, de tout un tas de choses.
Chut, c'est fini. Moi, je propose qu'on arrête là la réunion parce que ça fait quand même 3 heures qu'on en parle. Je rajoute le sujet dinosaure sur la liste des priorités pour le podcast qu'on fera un jour promis, à côté des films de requins. Et franchement, j'aimerais bien aussi qu'on fasse un truc peut-être un jour sur les films d'invasion alien parce que j'ai l'impression qu'il y a un bon sujet. La sortie de Traqué là sur Disney Plus m'a rappelé.
Très bonne idée, ouais.
Je pense qu'il y a des trucs bien.
Non, carrément.
En tout cas, en attendant que ce podcast arrive, je vais peut-être m'entraîner sur ce qu'on pourrait dire à la fin, parce que je crois que les gens ils disent avec une jolie voix « Merci de nous avoir écoutés, on compte sur vous pour mettre une bonne note et partager autour de vous, on vous dit à bientôt dans le prochain épisode !» Et je crois que c'est comme ça que les gens sont motivés à revenir.
Non, je pense pas vous l'inviter.
Certainement pas avec cette voix, en tout cas.
D'accord, bon, je referai ça pour la prochaine fois, peut-être.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.